Bonjour, 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 bonjour le chat. Comment ça va les petits amis? Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, installez-vous bien sûr. Merci Abby Winslow, merci pour ton resub, merci à toi. Le sondage, très important le sondage. L'union de la gauche, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est presque fait? Est-ce que c'est imminent? Est-ce que c'est peut-être le cas ou est-ce que c'est semé chez Jean? Évidemment, c'est le sub chez Jean. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi le nom du porte-avions? Alors, ça y est, on l'a ou on l'a pas? C'est quoi le nom du porte-avions? Parce que Macron, il doit dire aujourd'hui, c'est quoi le nom du porte-avions? Moi, j'ai mis toutes mes billes sur le Aya Nakamura. Mais je vais peut-être perdre. Hein. Je sais pas, ce serait peut-être autre chose. Le Charles III Gaulle, ouais, le Charles de Gaulle II. Le Brigitte, ouais, je sais pas. Voilà. Le Louise Michel, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. Le Macron. Macron. Emmanuel Macron 1. Le for sure. Je sais pas. Jérôme Bonaldi. Je sais pas. Bon, écoutez, normalement, c'est aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas quand c'est. Il doit faire une conférence de presse ou je sais pas quoi pour donner le nom du porte-avions dont la construction va commencer. On verra bien, hein. Le France porte-avions, évidemment. Salut, je ne comprends plus rien à la politique française, content de ne pas retourner voter dimanche. Vous savez que 96% des communes de France ont déjà un maire. Ça y est, c'est réglé. Hein. Ah bah ouais. 96% des communes, ça s'est fait au premier tour. Hein. Toutes les communes où il n'y a qu'une liste, c'est plié, évidemment. Les communes où il y a deux listes, bah c'est plié aussi. Le premier tour, ça faisait second tour, c'est pareil. Il ne reste plus que quelques communes. Mais n'oubliez pas que l'écrasante majorité des Français vivent dans très peu de communes. Et oui, bah oui, évidemment. Les communes les plus peuplées, elles sont peuplées, par définition. Donc forcément, les élections, le second tour, ça concerne beaucoup de monde, mais très peu de communes. Donc voilà. Ça représente quel pourcentage de la population? Je ne sais plus. Merci Bibeu. Je ne sais pas si quelqu'un a la stat dans le chat. Attends, je l'ai entendu ce matin parce qu'on a fait la réunion de rédac de Backseat. Emilien m'a dit que 65% des Français vivent dans 4% des communes. Un truc, je ne sais plus exactement quelle est la stat, mais voilà quoi. C'est quoi la proportion des communes qui n'avaient qu'une seule liste? Je me souviens que c'était plus de 60% des communes n'avaient qu'une seule liste aux élections municipales. Mais évidemment, on parle de petits villages dans lesquels il y a très peu de gens qui habitent. Donc c'est pas là que se trouve la majorité de la population. C'est 68%, ouais. 68% des communes ont qu'une seule liste. 100% des Français vivent dans 100% des communes. C'est vrai. C'est vrai. Et les statisticiens ne le disent pas assez. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Non mais ça va, vous? Ça va? Ça passe une bonne journée? C'est tranquille cette semaine? Semaine d'entre-deux-tours? Semaine de tous les dangers? La France retient son souffle avant le second tour? Moi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il n'y a plus de perceuse chez mon voisin du dessus. En revanche, il y a désormais un marteau-piqueur dans la rue. Ça fait 3 jours qu'il me casse le crâne. Parce que comme j'ai du simple vitrage, j'entends tout et du coup, j'en ai ras-le-bol. Là, il est en train de tourner actuellement, ils sont en train de péter des trucs. C'est chiant. C'est un relais. Ouais, il se relaie. Il se relaie pour me faire chier. Il se relaie pour me faire chier. Ouais, exactement. Ça fait mal au crâne, le marteau-piqueur, le matin et tout. Et encore, je suis pas celui de la rue qui habite le plus près du marteau-piqueur. Hein. Il y en a, ça doit être pire. C'est la continuité du service des travaux. Ouais, c'est ça. Je suis en plein salon du livre à Genève, avec plein de classes pleines d'enfants qui passent. Oh, les petits marmots! Les petits marmots qui vont visiter. Les Français de l'étranger n'ont pas de commune? Bah non. Et ils n'ont pas de municipale? Bah non. Mais ils ont les municipales de leur pays, quoi. Enfin, là où ils habitent. C'est pas sûr qu'ils puissent voter, d'ailleurs. Si c'est en Europe, oui. Si c'est ailleurs, j'en sais rien. Ça dépend de la règle du pays. Les petits qui lisent, c'est choupi. Mais oui, c'est choupi. Mais j'y repensais parce que, vous savez, quand je vous dis que Paris, c'est une ville qui est grande... Paris, c'est grand. Paris, c'est une très grande ville. Il y a 2 millions d'habitants, c'est immense. Il y a plein de gens qui connaissent pas du tout certains endroits de Paris. Merci, Radfeu. Mais c'est normal. Enfin, moi, tu me mets dans le 16e arrondissement de Paris, je me repère pas très bien. Hein. Je sais pas où je suis un peu paumé, je connais pas l'endroit, j'y vais jamais, j'ai jamais l'occasion d'y foutre les pieds. Voilà. Et à l'inverse, il y a plein de gens. Tu les mets dans le 20e, enfin, je sais pas, tu les mets dans le 19e et tout, ils savent pas où ils sont. Ils connaissent pas. Moi, il y a des gens que je connais qui me demandent t'habites vers où à Paris. Je leur dis où est-ce que j'habite et ils me répondent ah, je connais pas, je suis jamais allé, c'est sympa. Raconte, c'est cool. Tu vois, c'est... Bon, bah voilà. Et je dis ça parce que quand j'étais à la mairie du 20e, on avait des collèges qui organisaient des voyages. Voyage, le mot est un peu grand, mais c'était des journées pédagogiques dans Paris. On emmenait les enfants du 20e visiter Paris, parce qu'ils ne connaissaient pas Paris. Ils ne sont jamais allés à la Tour Eiffel, ils n'ont jamais vu le Louvre, ils n'ont jamais vu l'Assemblée nationale, la place de la Concorde, machin, tout ça pour eux, c'est des trucs dans les livres d'histoire, tu vois. Mais ce n'est pas du tout leur réalité, surtout un collégien. Les collégiens, c'est des petits, les collégiens, ils connaissent leur quartier, ils connaissent leur collège, mais ils ne connaissent pas très très bien la ville dans laquelle ils habitent. Et bah voilà, bah on faisait des séjours ou des voyages, on les emmenait. On finançait des trucs pour aller au Louvre. C'est à quelques arrêts de métro. Ouais, c'est à quelques arrêts de métro. Mais même le métro, le réseau du métro parisien, la plupart des Parisiens, ils vont pas partout à Paris. Il y a des Parisiens qui ont jamais vu la campagne à Paris, qui ont jamais vu les buts de Chaumont. Bah oui, non, c'est des coins. Ceux qui y habitent, ils connaissent évidemment, mais les autres, jamais été, connaissent pas. Mais même les collégiens, enfin je me les collégiens du 20e ne connaissaient que leur quartier du 20e, connaissaient pas le 20e arrondissement. Le 20e arrondissement, c'est très grand, hein. Le 20e, c'est 200 000 habitants. C'est pas le plus grand arrondissement de Paris, mais c'est un des plus costauds. 200 000 habitants, il y avait des collégiens, ils connaissaient leur quartier du 20e. Tu viens d'où? Bah, je viens du quartier Saint-Blaise. Je suis de Saint-Blaise. Mais tu connais Télégraphe? Non, jamais été. Et tu connais la mairie d'arrondissement du 20e? Non, je sais pas où c'est. T'es jamais allé à Gambetta? Non, je crois pas. Voilà. C'est... Bon, bah, après, encore une fois, c'est des collégiens. Les collégiens, ça voyage pas beaucoup. Ça va du domicile au collège. Ça sort pas énormément. Ça peut faire du sport. Ça peut faire des trucs et tout. Mais voilà. C'est à partir du lycée et les étudiants où là, ça commence à bouger pas mal. Puis après, quand t'es étudiant, tu fais la teuf dans tous les quartiers de Paris. Quand t'es étudiant, tu bouges. Évidemment. C'est pas ouf le pouvoir d'achat d'un collégien. Médiocre même, médiocre. Collégiens sont des très mauvais clients. Hein. Je suis juriste à Paris depuis 4 ans. Je connais que Colombe et le 8e. Bah voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas un jugement de valeur. Je comprends tout à fait qu'on connaisse pas des quartiers. Je te dis, moi-même qui suis parisien, moi-même qui ai bossé à la mairie de Paris, etc. Bah, il y a des coins de Paris, franchement, oui, non, jamais vraiment foutu les pieds. Je connais pas. La rue de Ménilmontant, bien pentue. Ah, la rue de Ménilmontant, bien sûr, évidemment. Il y a une archive très drôle qu'il faudrait que je retrouve, mais c'est un truc de l'INA, donc j'ai pas le droit de le diffuser. C'est dans les années 50, un journaliste avec une caméra qui est allé interviewer des Parisiens pour leur poser des questions sur les accents de Paris, les différents accents. Et les Parisiens à l'époque, ils te répondaient « Ah ouais, mais moi je sais reconnaître un gars de Belleville. Hein. Ah bah l'accent de Belleville, on le reconnaît tout de suite. Ah oui. Ah bah clairement. Hein. » Et puis, les mecs de Montparnasse, oh, les gars de Montparnasse, attends, on les connaît. Hein. Non, il parle, c'est hyper bizarre comment il parle. Et voilà, c'était vraiment le micro-trottoir où les gens disaient, oh, moi je reconnais les mieux. Ouais, je connais l'accent de Ménilmontant, on le connaît. Les titis parisiens. L'accent très nant comme ça. Oh, bah les gars de Paris, moi je les connais, les gars du Ménilmontant, là. Ah, ils ont un accent, les gars de Ménilmontant, moi je les reconnais. Hein. Voilà. Hey. Dans une étude récente d'une collègue, quelqu'un a défini son accent comme Paris 18e. Ah ouais, actuellement des accents à Paris? Pas tant que ça. Il y a l'accent parisien, je crois qu'il existe, mais l'accent de Paris, enfin des accents dans Paris, je suis pas sûr qu'il y en ait encore. Hein. La gardienne de mon immeuble, là où j'habitais avant, elle avait un accent, c'était vraiment l'accent parigot, quoi. C'est une des dernières de Paris à avoir vraiment l'accent parigot. Parlait comme ça. Ah ouais. Non, elle avait l'accent. C'était marrant. L'accent parisien, il existait encore il y a 20 ans, mais plus aujourd'hui. Bah, c'est un accent qui se perd parce que, je suppose, hein, je ne suis pas linguiste, je pense qu'il y a des études qui ont été faites dessus, c'est un accent qui s'est perdu par le brassage de la population, et tu devais avoir encore des personnes âgées. Tu vois, la gardienne de mon immeuble, c'était une personne âgée. C'était une vieille dame qui était là depuis toujours, qui avait toujours vécu à Paris, c'était une vraie parigote à l'ancienne, et elle avait encore l'accent, mais voilà, c'est une personne âgée. Les gens plus jeunes, ils n'ont pas... Non. Enfin, moi, j'entends pas l'accent parisien. Hein. Après, c'est bizarre que je dise ça, parce que comme je suis moi-même parisien, peut-être que j'ai un accent parisien et que je m'en rends pas compte. Hein, les gens du sud, là, dans le chat, j'ai un accent ou pas? Quand je parle? Ou j'ai l'espèce de voix standard de n'importe quel connard sorti de Sciences Po? C'est possible aussi. Ouais, j'ai la tronche et l'accent. Ouais, ok, d'accord. Non, c'est bon, j'ai pas trop d'accent? Oui, t'as un accent. Ah bon, bah voilà. T'es un bot, ça c'est vrai. Oui, un peu. J'ai une voix urbaine standard. Ouais, c'est ce que je me dis, je dois avoir une voix urbaine à peu près standard. Merci, merci si j'y homme. Même si la voix urbaine du sud, c'est pas la même, quoi. T'es une IA, Jean. Je suis une IA, mais je suis en cours de développement. Ma chaîne Twitch est une chaîne d'intelligence artificielle. Conçu par Clément Viktorovitch dans le but d'apporter de la formation initiale en vue de pouvoir suivre ses streams. C'est à ça que je sers. J'ai été programmé pour ça. Tu serais à Lyon, je verrais et j'entendrais pas la différence. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, j'ai pas l'impression d'avoir une voix différente des Lyonnais. J'ai pas l'impression que quand je discute avec des Lyonnais, ils ont une voix de Lyonnais, tu vois, ils ont un accent lyonnais. Je me rends pas compte en fait. Mais peut-être que je me rends pas compte. Hein. Peut-être que j'ai véritablement un accent et que juste je m'en rends pas compte. T'as pas une voix du sud? Non, j'ai pas une voix du sud. Non, j'ai pas une voix du sud, ça c'est vrai. Beurre doux ou salé? Beurre doux ou salé? Bah, il y a un débat là-dessus. Il y a un débat. Y a un débat. La réponse scientifique à la question, c'est beurre salé. Et la réponse politique à la question, c'est les gens qui mangent du beurre doux méritent la mort. Voilà. Maintenant, je vous livre ça. Vous en faites ce que vous voulez. Je dis juste la science. C'est comme ça. Hop là. Ben voilà, vous pouvez répondre dans le chat, mais méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous répondez. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Le beurre doux, c'est juste pour la cuisine. Oui, ça peut être toléré dans certains usages culinaires, sous forte surveillance. La Bretagne est française. La France est bretonne. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les Français sont tolérés par les Bretons. je n'accepterai aucune fusion avec un avec une liste du parti du beurre doux. Merci Blistoff. Merci pour ton resub, merci. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, j'ai eu mon père au téléphone. J'ai eu mon père au téléphone, assez serré, hein. Assez serré, hein. Il est au second tour. Il y a eu fusion de liste. Il a fusionné avec la gauche. Il a fusionné avec la gauche. Ce qui ne veut rien dire, hein, la gauche. Dans une ville de 1500 habitants, peanuts. Il a fusionné avec, avec l'autre liste. Et le cumul des voix des deux listes qui ont fusionné, ça devrait faire plus de 50%, mais ric-rac. Le problème, c'est qu'en face, c'est le maire sortant. Eh ouais. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il y a quand même une prime au sortant importante. Donc, il y a peut-être pas mal de gens qui vont voter. Ah, là, mais... ah, c'est compliqué. Puis, ils se sont écharpés sur le programme. Hein. On fait pas une fusion comme ça. Hein. Attends. Ils sont engueulés sur les impôts et tout, machin. Mon père, il a fait en sorte qu'on n'augmente pas les impôts. C'est très important. Ouais. Ah, non, c'est carré. Hein. Papa Massier fusionne avec la gauche. C'est ça. C'est pas la gauche. C'est... Il m'a dit non, mais la tête de liste, elle est un peu de gauche parce qu'elle est écolo. Alors voilà, tu sais, moi, les écolos. Vas-y. Est-ce que tu veux ? Ouais, ça me va. Il accepte la gauche maintenant ? Ah, il faut ce qu'il faut pour gagner une élection. Hein ? Faut bien. Balancer les rancœurs à la rivière, comme disait Jean-Luc Mélenchon, et faire alliance. Si l'alliance est nécessaire, alors elle est utile. C'est pour faire barrage à quel camp ? C'est pour faire barrage au maire sortant, parce qu'il est nul. Toujours pas très bien compris pourquoi, mais apparemment, il y a des raisons. Apparemment, il y a suffisamment de raisons pour qu'il y ait deux listes contre lui. Il y a un sens unique sur la rue de l'église, c'est impardonnable. Oui, c'est un peu le genre. C'est un peu le genre de problématique locale. Mais c'est des vraies problématiques. Ça et le montant des impôts. Le montant des impôts, faut arrêter. Hein. Est-ce que tu penses que les fusions vont apporter des reports de voix ou au contraire faire perdre des voix à la liste qui était en tête ? Mais c'est toute une question. Les partis politiques ne sont pas propriétaires de leurs électeurs. Les électeurs sont libres. Les partis peuvent bien fusionner, mais les électeurs sont libres d'en penser ce qu'ils en pensent de la fusion. Ils peuvent décider de se barrer, ils peuvent décider de soutenir l'union... faire un effort commun et tout, ou alors à l'inverse de dire non, ça c'est sans moi, c'est hors de question, je vote pour l'autre liste, machin. Donc c'est. On peut. C'est pas très prédictif. Additionner les voix, c'est une science imprécise. Ça donne des indications. Quand on est maire ou adjoint, comment ça se passe avec son taf ? Ça dépend de la taille de la ville dans laquelle tu es maire ou adjoint, mais dans la plupart des communes, évidemment, tu gardes ton taf, hein, tu continues à bosser, et en parallèle, tu as ton boulot. Alors, tu peux demander une décharge horaire, tu peux renégocier ton contrat de travail avec ton employeur pour obtenir une diminution de ton nombre d'heures pour libérer un jour par semaine, par exemple, pour t'occuper de la mairie. Voilà, tu peux compenser, tu peux... Mais tu gardes ton taf. Hein. La plupart des maires, notamment dans les petits villages, c'est des agriculteurs. Hein. Ils continuent à s'occuper de leur exploitation. Les médecins, c'est pareil, ils continuent à recevoir des patients. Hein. Et tu aménages ton emploi du temps autant que possible. Et parfois, c'est compliqué. Et si tu es fonctionnaire... Alors, je crois que dans le statut de la fonction publique, il y a des règles qui disent qu'un fonctionnaire qui est élu a le droit à une décharge horaire. Il y a un aménagement obligatoire du temps de travail du fonctionnaire pour tenir compte de son mandat. Donc voilà. Donc quand tu es fonctionnaire, tu vois ça avec ta hiérarchie et tu adaptes ton emploi du temps. C'est comme quand tu es délégué du personnel. Ouais, c'est comme quand tu es délégué du personnel. Dans le code du travail, c'est bel et bien prévu. Surtout pour les grandes entreprises, les délégués du personnel ont des décharges, on appelle ça une décharge horaire, c'est-à-dire des heures qui sont payées, mais qui sont consacrées à ton travail de délégué du personnel. Merci Sophie. Et dans les plus grandes entreprises, tu peux avoir... Oui, c'est ça, c'est les heures de délégation, pardon. Les heures de délégation. Dans les plus grandes entreprises, tu peux avoir une décharge totale. Tu peux, si ça arrive, il y a des salariés qui ne s'occupent plus que de leur fonction de représentant du personnel. Ils s'occupent du syndicat, ils s'occupent de la vie de l'entreprise, ils s'occupent de faire le lien avec les collègues, etc. Et ils ne font plus que ça. Je suis à la CGT et élu dans ma boîte et j'ai 2 jours par semaine de délégation. Ah, t'as 2 jours par semaine? Ben voilà. Donc en gros, tu bosses lundi, mardi, mercredi et le jeudi, le vendredi, tu le consacres à ta délégation. Ben évidemment, je fais un calcul de tête, hein, mais je ne sais pas comment tu t'organises. Mais en tout cas, il est prévu dans ton contrat de travail, dans ton emploi, dans ton machin, que tu as 2 jours que tu dois consacrer à ta fonction de délégué du personnel. Je suis représentant syndical d'une entreprise de plus de 500 personnes. J'ai 24 heures de délégation par mois. Et c'est pas beaucoup. 24 heures de délégation par mois. Bon, bref, vous voyez, ça dépend des boîtes, ça dépend sans doute aussi des accords de branche et tout. Je vous avoue, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est bel et bien prévu par le Code du travail, le fait d'avoir de la délégation, pour les élus du personnel. Et pour en revenir aux élus locaux, ça fonctionne à peu près de la même manière. Ça, pareil, ça dépend des boîtes, ça dépend de beaucoup de choses. Et tu peux obtenir vis-à-vis de ton employeur une délégation. Quand tu es fonctionnaire en fonction du poste occupé dans la mairie, tu peux être obligé de changer de poste pour ne pas avoir de gestion de tes administrés. Oui. Pareil, je ne connais pas les règles précises, mais tu peux pas être fonctionnaire d'une mairie et être élu à la mairie. Je crois que c'est la règle de base. Alors, je sais pas comment est l'application exacte. Mais techniquement, tu peux pas être... Moi, je me souviens quand je bossais à la mairie du 20e, l'adjointe chargée des affaires scolaires, elle était prof. Et elle a demandé à l'éducation nationale, elle a demandé au rectorat à être changée d'arrondissement pour ne pas être prof dans le 20e dont elle s'occupe des affaires scolaires. Mais en l'occurrence, elle l'avait obtenu. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on doive démissionner de son poste de maire parce que sa boîte refuse l'aménagement? Oui, ça arrive, bien sûr. Il y a des... Bien sûr, ça arrive. Il y a des gens qui démissionnent de leur poste de conseiller municipal ou adjoint ou maire, ça peut arriver, parce qu'ils n'ont plus de boulot, parce qu'ils viennent de trouver un nouveau taf et que leur nouveau taf leur demande... Bah, c'est un temps plein, ils n'ont pas réussi à négocier, en tout cas, c'est pas le moment de négocier, donc tu comprends, j'ai plus le temps, bien sûr, évidemment. Ça arrive. Delafosse, il est toujours prof, 2 matinées par semaine dans un collège sur Montpellier. Ouais, Michael Delafosse, le maire de Montpellier, il a toujours des classes au collège. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, il y a eu des reportages à la télé où tu vois. Le maire devant ses collégiens en train de faire un cours d'histoire géo, là. Ben voilà, Michael Delafosse. Moi, j'ai interviewé le sénateur Bernard Jomier. Bernard Jomier, il est médecin, en libéral, hein, il a son cabinet, et il continue à recevoir des consultations, tous les vendredis. Et je lui ai demandé, mais c'est pas un peu compliqué d'être sénateur et médecin en même temps, pourquoi vous arrêtez pas d'être médecin? Il m'a dit, mais plutôt crever que d'arrêter d'être médecin. Certainement pas. Moi, je veux garder mon cabinet, je veux garder ma patientèle. C'est des patients que je suis depuis longtemps. Je les abandonnerai jamais. M'en fous si je suis sénateur à côté. C'est mon problème. C'est moi qui m'organise. Voilà. Je suis délégué syndical dans la fonction publique hospitalière. Les heures sont acquises lors des élections pro et redistribuées aux délégués syndicaux. On a donc des détachements en fonction qui se demandent et s'accordent en interne à ton syndicat. Ah, ça peut être 20%, 60%, 80%, 100%, tout dépend des mandats. D'accord. Ah oui, donc c'est les syndicats qui ont en gros un paquet d'heures et qui se démerdent en interne pour les répartir entre les délégués. Putain, ça doit faire des négos, ça. Ça doit faire des négos. Est-ce qu'on peut être maire avec un conjoint fonctionnaire dans le village? Oui, je crois. Oui, je crois. J'ai pas de. Ça pourrait faire un bon scénario de film, ça. Le maire qui sort avec la secrétaire de mairie. Pardon, c'est très genré, hein, mais parce que bon, dans la réalité, c'est beaucoup ça. Pendant le Covid, il y a eu quelques élus médecins infirmiers qui étaient retournés au Turbin. Oui, bien sûr. Les médecins élus qui étaient retournés soigner des patients pendant le Covid, il y en avait eu. Mais bon, vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des députés qui sont allés combattre sur le front. Hein. Ben voilà. Jean-Marie Le Pen a démissionné de son mandat de député pour aller se battre en Algérie. Avec les paras. C'est un exemple qui m'est venu en tête, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Je travaille sur les missionnaires français au Japon. Certains sont revenus en France spécialement pour la guerre. Eh ben. Moi, je suis entré en résistance dès 1946. Au lendemain de la libération de Paris. Donc voilà, donc effectivement, gardez en tête que vos élus, surtout vos élus municipaux, ce sont des gens normaux. Parce qu'ils ont un métier, parce qu'ils ont une vie de famille, etc. Dans la plupart des mairies, même dans toutes les mairies, en fait, tu peux pas être conseiller municipal à plein temps, ça n'existe pas. Tu peux être adjoint ou maire à plein temps, ça c'est possible, surtout dans les plus grandes villes, évidemment. Mais dans les plus petites mairies, non, c'est pas possible. Donc tu gardes ta vie à côté, tu gardes ton, ça peut être ton allocation chômage, ton RSA, tu gardes ton exploitation agricole, ton cabinet de médecin, ta boutique. Si t'es commerçant, voilà. Est-ce que tu peux expliquer les fusions à Strasbourg, s'il te plaît? Je pige pas trop ce qui se passe. Bah moi non plus. Attends, qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg? Catherine Trottmann, socialiste, sortante, a fait alliance avec Horizon. Est-ce que jusque-là j'ai bon? Non, elle n'est pas sortante. Ah mais non, je suis con, c'est les écolos qui sont sortants. Pardon, elle n'est pas sortante. Mais elle a fait alliance avec Horizon, ce qui lui a valu une rouste de la part de Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a dit que les alliances avec la droite, c'était pas possible et que donc elle se mettait, je cite, en dehors du Parti socialiste. Alors est-ce que ça veut dire qu'elle va être virée ou pas? Ah, on ne sait pas, faut voir, ça dépend. Et à côté de ça, LFI et les écolos ont fusionné. Ouais, c'est ça, merci. LFI et les écolos ont fusionné à Strasbourg. Merci, la mouette. Merci beaucoup. Il lui a retiré l'investiture. Oui, l'investiture PS a été retirée à Catherine Trottmann, ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein, entre nous. Ça coûte pas cher. Donc il n'y aura pas le logo PS sur l'affiche. De toute façon, il n'y aura même pas d'affiche. Là, on est déjà mercredi. Enfin, non, mais tu vois, c'est. Bref, c'est. Ok, bon, c'est symbolique, mais le PS a retiré son investiture à Catherine Trottmann. PS plus Horizon, oui, mais les partis PS et Horizon ont retiré leur soutien respectif à cette liste de fusion. Et Horizon soutient la liste LR désormais. Ah! Ah ça, je l'avais pas. D'accord. Oui, parce que, d'accord, donc du coup, la liste Horizon a fusionné, mais le parti Horizon n'était pas d'accord non plus. On ne fait pas alliance avec la gauche, hein. On n'est pas là pour soutenir les gauchistes. Donc, Horizon a retiré l'investiture à la liste fusionnée et a accordé l'investiture à la liste LR. Oh. Mais du coup, non, mais parce que du coup, je reviens sur le PS. Le PS a retiré son investiture à Catherine Trottmann, mais est-ce que le PS a attribué son investiture à quelqu'un d'autre? Ce serait rigolo que le PS soutienne la liste LFI écolo sur laquelle il n'y a plus aucun socialiste. Non, non, ils sont pas allés jusque-là. Ils sont pas allés jusque-là. Ils n'ont pas le sens de l'humour. Ils n'ont pas le sens de l'humour. C'est triste, hein? Il n'y a pas de consigne du PS. Ok, le PS ne donne pas son investiture à Strasbourg. Ok, bon. Techniquement, le PS n'a pas retiré l'investiture parce que Faure n'a pas le droit de le faire tout seul. Ah, c'est la commission des investitures du PS qui doit prendre la décision. Et ils n'ont pas décidé? Oui, non, mais t'as raison, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé pour les Républicains. Les Républicains, à Nice, bah, ils ont un problème, les Républicains à Nice. Parce que c'est qui au second tour? C'est Éric Ciotti contre Christian Estrosi. OK? Les deux viennent du Parti des Républicains. Ils ont été au Parti des Républicains pendant des années. Éric Ciotti a même été le président du Parti des Républicains. Bon. Sauf que Éric Ciotti s'est barré des Républicains, enfin il a été jeté par la fenêtre, pour rejoindre Marine Le Pen. Ah, compliqué. Et Christian Estrosi, il a rejoint Macron. Ah, compliqué. Du coup, les Républicains, bah, ils sont emmerdés au second tour à Nice. Qui on soutient? Bruno Retailleau a dit qu'il refusait d'accorder son soutien à Christian Estrosi. Ben oui, c'est toute la ligne politique de Bruno Retailleau. Je vous rappelle que Bruno Retailleau, il s'est cassé, hein. L'alliance LR Macron, pas son truc à Bruno Retailleau, hein. Ah non, 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 Bruno Retailleau, opposant à Macron. Donc, ça, c'est pour le président du parti, mais la commission d'investiture des Républicains a décidé de soutenir Estrosi. Donc, techniquement, les Républicains soutiennent Estrosi, sauf le président des Républicains, qui soutient personne. C'est bon, vous l'avez? C'est bon, c'est clair pour tout le monde? C'est un bordel. Donc, voilà quoi. Non, c'est sympa, hein, c'est sympa. Cet entre-deux-tours des municipales, il est sympa. Hein. Il n'y a pas à dire, on s'ennuie pas. Hein. Gérard Larcher réitère le soutien de LR à Christian Estrosi il y a 30 minutes. Oui, Gérard Larcher, de toute façon, Gérard Larcher, il peut pas piffrer Bruno Retailleau. Donc, ouais, Gérard Larcher, il soutient Estrosi, oui. Oui, ça lui coûte pas cher, c'est bon, ça va. J'ai lu qu'il y avait un LR qui soutenait LFI. Oui, c'est Bruno Retailleau qui a apporté son soutien à LFI. Non, je déconne. Non, 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 je déconne, je déconne. Non, j'en sais rien, je connais pas l'anecdote. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est possible. J'ai failli m'étouffer. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Alors, c'est une chaîne de qualité ici, on essaie de rester un peu carré. Non, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au final, à Toulon, le désistement LR, la Valette va probablement pas passer. Bah, on croise les doigts hein, pour que le RN obtienne le moins de villes possible. Hein. Front républicain au second tour. Moi, si j'étais niçois, je voterais pour Christian Estrosi. Bah ouais, bah il faut bien, bah évidemment. On va pas laisser Éric Ciotti gagner non plus, faut pas déconner. Voilà. À Paris, la situation n'a pas bougé. Non, à Paris, la situation n'a pas bougé. Il y a trois candidats au second tour. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chékirou. Le vote blanc, ça sert encore à rien. Le vote blanc, ça compte la même chose qu'une abstention. C'est un vote blanc, c'est un vote qui n'exprime pas un choix. On ne compte que les choix. La gauche se maintient, mais c'est dette pour Estrosi. Bah, ça risque d'être Éric Ciotti qui gagne, ouais. Il n'y a pas un débat ce soir, d'ailleurs. Alors, si BFM TV organise un débat entre Sophia Chékirou et Emmanuel Grégoire, entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, pardon, Sophia Chékirou n'a pas été invitée au débat, ce qui a provoqué une levée de bouclier du côté de la France Insoumise, qui s'est scandalisée de cette décision de... Ah si, finalement ! Ah ! Ah bah voilà, tout est bien qui finit bien. Chékirou va finalement participer au débat. Eh bah putain, j'avais pas l'info. Moi, j'étais resté bloqué sur le... C'est un scandale, on saisit l'ARCOM. Ça sert à rien de saisir l'ARCOM. Hein. L'ARCOM, il s'immisce pas dans les choix éditoriaux des chaînes. Merci, Neros. Merci beaucoup. Moi, je comprends toujours pas la différence idéologique entre Estrosi et Ciotti. C'est comme entre le PS et la France Insoumise, c'est pareil. Il n'y a que les initiés qui comprennent les subtilités. Macron parle à 16h30. Est-ce que tu vas regarder pour le nouveau porte-avions ? J'ai un peu la tête ailleurs, je t'avoue. Non, je ne sais pas, vous voulez vraiment qu'on regarde le discours de Macron ? Juste pour avoir le nom, parce que nous, on s'en branle. Enfin, tout ce qui nous intéresse, c'est le nom du porte-avions. Et encore, quand je dis qu'on s'y intéresse. C'est voilà. À mon avis, hein, quand on va apprendre le nom du porte-avions, on va faire « Ah, ah ouais, d'accord, ok, bon. Allez, next. » Voilà, ça va être ça. Je sais pas, j'ai pas d'analyse, je m'en fous un peu. J'avoue, on s'en branle. Oui, bon, voilà, écoutez, hein, on va continuer. Non, nous, on est une chaîne Twitch sérieuse. On est là pour s'embrouiller l'esprit avec des alliances et des pas-alliances d'entre-deux-tours des élections municipales. C'est ça qui compte. Le reste, bon. On reparlera de la guerre en Iran, etc., la semaine prochaine, bien sûr, évidemment. Mais là, on est dedans, là. C'est bien tous les jeudis, Backseat. Autant que possible, oui. Demain, Backseat. Je vous donne rendez-vous demain, Backseat, pour une émission spéciale entre deux tours des élections municipales. Je serai en plateau avec les meilleurs analystes de Paris pour tout ce qui est politique et résultats des élections. On sera avec Rachel, on sera avec Antoine, on sera avec Émilien, que des gros bonnets, pour analyser ensemble les résultats du premier tour. Et en invité politique, nous recevrons pas une, mais deux invités politiques, deux élus, une insoumise, une socialiste. Vous vous doutez bien qu'on a beaucoup de questions à leur poser. Et ce seront en plus des élus qui ont le bon goût d'avoir été des chroniqueuses de Backseat. Bah oui, Claire Lejeune et Chloé Ridel. Claire Lejeune, députée insoumise, Chloé Ridel, députée européenne, socialiste. En même temps, ouais, en même temps. On va faire une interview croisée, on va les recevoir en même temps. Est-ce que ça va être une bagarre ? Pourquoi ce serait une bagarre ? On est en pleine fusion LFI-PS. Les rancœurs sont jetées à la rivière, c'est bon. Non, c'est vraiment pas le moment de la bagarre. Hein. On verra. Mmh. Nous, on aime bien la bagarre.
Ben non, mais...
mais on va, là, on va évidemment les interroger, Chloé et, Chloé et Claire, sur les positions de leur parti, sur les angles morts de leur positionnement aussi, sur les alliances qui se font dans certaines villes et pas dans d'autres, les raisons qui poussent à faire alliance ou pas, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite ? En pleine fusion LFI-PS, j'ai Gedge comme député qui hurle sur tous les plateaux à quel point il déteste les insoumis. Bah Gedge, il est pas en train de passer un bon moment, là. C'est tout. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait déjà hier. C'est-à-dire que les socialistes qui sont contre les alliances avec la France insoumise, ils sont en train de se prendre le bec dans l'eau des fusions dans toutes les villes. Et les insoumis qui veulent plus entendre parler du PS et qui disent plus jamais PS, ils sont eux-mêmes en train de se rendre compte que s'il y a des alliances partout. C'est gros moment de clarification dans plein de villes. Avec des listes d'union à LFI-PS. Glucksmann, il n'est pas content non plus. Bah ouais, mais Glucksmann, il pèse pas très lourd dans les villes. Place publique, c'est un parti politique national, incarné. Ça marche bien pour les élections européennes. Ça marche quand c'est soutenu par le PS. Ça marche potentiellement bien pour une élection présidentielle. Ça, on verra, ce sera 2027 le test. Mais entre les deux, bon. Ça reste que les municipales. Chacun va rentrer dans son coin après pour préparer les présidentielles. Ah, mais c'est sûr! C'est sûr! C'est sûr, les chamailleries vont reprendre dès lundi matin. C'est sûr, évidemment. Le PS et LFI font un mariage de raison. Merci Maud Guillot. En parlant de 2027, c'est quand la date butoir pour le dépôt des candidatures ? Oula, on n'y est pas. Hein. La date butoir pour la présidentielle, c'est février 2027. On est large, on est large. Si Dati est élue à Paris, est-ce qu'elle pourrait se rattraper ses casseroles judiciaires ? Merci, ma quéquette. Putain. Si Dati est élue à Paris, pourrait-elle se faire rattraper par ses casseroles judiciaires ? Oui, absolument. Oui, oui, absolument, bien sûr. Rachida Dati a rendez-vous avec la justice au mois de septembre, novembre, je ne sais plus quoi. Voilà. Qu'elle soit maire de Paris ou pas. Qu'elle soit maire de Paris ou pas, elle devra comparaître devant le tribunal pour des faits qui lui sont reprochés. Alors attendez. J'ai un article. Tiens, j'ai un article sur les Républicains. J'ai un article sur les Républicains. Hop. Parce que les Républicains est un parti qui résiste très très bien à ces élections municipales. On n'en parle pas beaucoup, mais ils ont fait des plutôt bonnes élections municipales. Je vais passer aux toilettes rapidement, je reviens.
Hop.
Alors, pardon. Alors, du côté des Républicains, comment ça se passe ces élections municipales avec, en toile de fond, les alliances avec le RN? Vous allez voir que les Républicains n'ont pas beaucoup fait alliance avec le RN. Contrairement à ce qu'on aurait pu anticiper et à ce qu'on avait anticipé sur cette chaîne, d'ailleurs, pour être honnête. Rappelez-vous dans le chat, vous étiez nombreux à dire que c'est sûr que LR et le RN vont faire des fusions et tout. Malgré quelques accords locaux, LR résiste encore aux mains tendues du RN. À quelques cas près, condamné par le parti, les Républicains ont résisté à la tentation d'un accord avec l'extrême droite, même si les ralliements individuels se sont accélérés à l'occasion de la campagne. Au soir du second tour des élections municipales, Bruno Retailleau s'adressera peut-être à ses troupes en citant La Fontaine. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Face aux insistantes mains tendues du Rassemblement national, soucieux de consolider son ancrage local en s'alliant à des figures de droite sur le terrain, le Parti des Républicains résiste encore au grand chavirage. Voilà des mois que le patron du parti martèle que l'union des droites ne se fera pas par une tambouille d'appareil, mais dans les urnes. Malgré un lent rapprochement idéologique et culturel avec l'extrême droite, couplé à la porosité de son électorat, la droite se refuse toujours aux alliances, fusions et autres désistements. À l'exception d'une poignée d'accords locaux que la direction du parti affirme ne pas cautionner, et du cas niçois où Bruno Retailleau a refusé mercredi de choisir entre les deux anciens membres du parti, le sortant Christian Estrosi et son concurrent Éric Ciotti, allié au RN. Au Rassemblement national, Jordan Bardella avait, dès dimanche soir, lancé un appel aux listes de droite sincères qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. En gros, c'était un appel du pied vers les Républicains. Ouverture aussitôt nuancée par son refus de voir des listes RN qualifiées au second tour se désister en faveur de la droite dans les triangulaires face à la gauche. Ah! Jordan Bardella, il est prêt à faire alliance avec LR, mais il n'est pas prêt à se désister en faveur d'LR. Faut pas déconner. Les sénatoriales en ligne de mire, le RN compte bien maximiser son réservoir d'élus locaux qui voteront à l'automne pour garnir la chambre haute. Signe évident que la noce est encore loin. Alors qu'aucune poigne n'a été saisie côté LR, le député Jean-Philippe Tanguy dénonçait mardi matin sur BFM la lâcheté de la droite. « On ne veut pas de fusion avec le RN », rétorque une figure du parti. « On est engagé dans une lutte avec eux. Ils sont nos adversaires et veulent notre mort. » Eh bien, dis donc, les mots sont forts. Les mots sont forts du côté des Républicains pour dénoncer le Rassemblement national. Quelques entorses ont pourtant été observées localement. À Bricontrobert, en Seine-et-Marne, la liste RN et LR ont fusionné pour battre le maire socialiste sortant. Avec Franck Deugnon, nous avons décidé de nous allier pour rendre à Bricontrobert sa fierté, a écrit sur X le candidat RN Morgan Vanacker. La direction de LR assure à Libération que le candidat LR Franck Deugnon sera exclu du parti. On verra. Un accord inédit a également été noué à La Réunion. Selon Le Monde, le président du conseil départemental Cyril Melchior, investi par LR à Saint-Paul, deuxième commune de l'île avec plus de 100 000 habitants, est allé chercher le soutien du candidat RN Jean-Yves Morel, éliminé avec 5,9% des voix au premier tour. Le maire sortant, Emmanuel Séraphin, soutenu par LFI, est largement arrivé en tête du premier tour avec 46,16% des voix. Oui, donc ça veut dire que Cyril Melchior, il tente le tout pour essayer de battre la France insoumise. Et pour ça, il va jusqu'à s'allier avec une petite liste RN qui n'a obtenu que 6% des voix. Est-ce que ce sera suffisant? Ça risque d'être tendu à Saint-Paul. À Nice, enfin, Bruno Retailleau a déclaré laisser aux électeurs le soin de départager Christian Estrosi et Éric Ciotti. Les deux hommes sont d'anciens membres de LR, dont l'un a rallié le parti d'Édouard Philippe, Horizon, et l'autre créé l'UDR, allié du Rassemblement National. On avait un accord national avec Horizon notamment, qui comprenait Nice, mais cette campagne a été délétère, a affirmé sur BFM TV l'ancien ministre de l'Intérieur, faisant référence aux appels à la gauche lancés par le sortant, en très mauvaise posture face à Ciotti. Il pourrait surtout s'agir, pour Retailleau, de voler au secours de la victoire, tant le concurrent UDR est en position favorable après le premier tour, et de ménager ses rapports avec celui-ci, qui, en cas de succès, plus que jamais l'homme fort du département, serait en position de lancer une OPA sur les troupes LR locales. Ah, j'avais pas cette grille de lecture-là. Christian Estrosi est trop puissant localement, et si les Républicains le soutiennent, ils risquent de lancer une OPA avec Horizon pour choper la fédération, quoi. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Mais dans la grande majorité des communes, les consignes de non-accord avec l'extrême droite sont majoritairement respectées. À Clermont, le candidat RN a proposé une fusion technique au LR Julien Bonny, en tête au premier tour, pour battre le sortant socialiste en vain. Même porte close à Limoges, Dijon ou Vitrolles, ancien bastion trotskiste. Merci François Nilois. L'offensive n'épargne pas les petites communes, moins scrutées par les états-majors partisans. À Delle, 5000 habitants, la candidate RN a proposé une fusion pour battre la maire socialiste sortante, arrivée en tête au premier tour, sans succès. C'est quoi une OPA ? Ah pardon, une OPA, pour ceux qui ne savent pas, une OPA, c'est une offre publique d'achat. C'est une manœuvre agressive qui consiste à prendre le contrôle d'une entreprise en rachetant des actions. En gros, vous voulez prendre le contrôle d'une boîte et vous lancez publiquement un appel à tous les actionnaires de la boîte en leur disant « Je vous rachète vos actions à tel prix. » Et en général, un prix assez attractif, au-dessus de la valeur de marché. Et ensuite, vous récoltez les actions qui vous sont vendues. Et hop, vous êtes majoritaire et vous prenez le contrôle de l'entreprise. C'est ça qu'on appelle une offre publique d'achat. Et par extension, une OPA, ça désigne toute manœuvre cavalière de prise de contrôle d'une entreprise, d'une association, d'un parti politique, machin. Voilà. J'en étais où ? Donc on en était sur ce paragraphe qui nous dit qu'en fait, localement, les Républicains n'ont pas saisi les mains tendues du Rassemblement national. Ils préfèrent perdre face aux socialistes plutôt que de faire alliance avec le RN. Ce qui, du coup, nous donne une indication un peu différente de ce qu'on anticipait quand même. Les appels au retrait ne trouvent pas davantage d'écho. Malgré les appels de Bardella et de son candidat à Marseille, Franck Alizio Martine Vassal, arrivé troisième position, a décidé de se maintenir. À Nîmes, Franck Proust et Julien Plantier se sont résolus, eux, à s'unir pour battre le candidat RN, Julien Sanchez. À Toulon, déjà administré par le Front National entre 1995 et 2001, le sénateur LR Michel Bonus s'est retiré pour faire front à l'extrême droite. Les rarissimes cas de rapprochement ont été sanctionnés. À Reims, Stéphane Lang, ancien adjoint du maire Arnaud Robinet, parti en dissidence au premier tour, a été exclu de LR après avoir rallié la candidate RN Anne-Sophie Frigout. Les alliances pointées avant le premier tour par le Parti Socialiste, elles, n'ont pas fait trembler les murs LR. Trois fusions de listes avaient été dénoncées à Bar-le-Duc, à Varennes-Vauzelles et à Nogent-le-Rotrou. Mais selon un cadre LR, le parti soutient l'ancien député Lyotte, Bertrand Pancher, pour la préfecture de la Meuse. À Nogent et Varennes-Vauzelles, s'il n'y a pas de liste LR, les instances ne soutiennent pas pour autant les candidats RN. Donc, retrait sans soutien, c'est ça ? Bien que les frontières des partis restent étanches, le RN continue pourtant d'avaler des pans entiers de la droite. Ces derniers mois, Libération a recensé des dizaines de ralliements d'élus locaux LR vers les écuries RN, Reconquête ou UDR, comme à Béziers, Paris, Neuilly-les-Mines, Versailles, Colmar. Sous les radars, le RN embarque également d'anciennes figures LR sur ses listes locales, notamment à Nogent-le-Rotrou et Bourg-Saint-Andéol, en Ardèche. Intéressant. Donc, les Républicains résistent globalement contre le Rassemblement national. Ils ne veulent pas faire d'alliance avec eux dans la plupart des villes. Il y a des exceptions. Mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'élus locaux LR ont déjà rallié le RN avant les élections municipales. À garder en tête, est-ce que Bruno Retailleau va s'en féliciter? Est-ce que Bruno Retailleau... J'ai vu qu'il avait fanfaronné à l'issue du premier tour des élections municipales en disant que les Républicains avaient gagné près d'une centaine de mairies. Est-ce que ça va être un pari gagnant au second tour? La résistance de LR héritée du gaullisme. Bah, peut-être que c'est plus au niveau local qu'au niveau national. Il y a peut-être une grille d'analyse aussi à avoir en se disant que les Républicains, c'est un grand parti dans lequel il y a des gens très différents les uns des autres. Tu as les élus nationaux à l'Assemblée nationale qui sont plutôt éloignés du Rassemblement national, hein, d'ailleurs, qui sont plutôt proches des macronistes quand on voit le refus de censurer, etc. Bon. Tu as effectivement un Bruno Retailleau qui a une ligne très droitière et qui a été élu président du parti. Mais au niveau local, tu as des gens moins connus, plus modestes, qui ne veulent pas entendre parler du RN et qui résistent mieux que le national aux sirènes du Rassemblement national. La ligne Xavier Bertrand. Ouais, c'est ça. La ligne Xavier Bertrand semble trouver un écho favorable chez les élus locaux. Chez les élus locaux des Républicains. Dans les plus grandes villes, les maires de droite sont plutôt Horizon, LR pèse moins. Soutenu par Horizon, certainement, mais de là à dire qu'ils sont Horizon, Ouais, ça dépend lesquels, c'est souvent des listes d'union aussi. Hein. Les élus locaux LR et divers droites sont souvent plutôt centre-droit et ne veulent pas entendre parler de la ligne nationale. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a une vraie barrière entre le local et le national à droite. Chez des élus locaux qui se concentrent sur leur commune, qui se concentrent sur leur département et qui ne veulent pas entendre parler des sirènes nationales. C'est des EPR qui s'en foutent dans l'absolu, mais c'est juste que ça ne dicte pas leur conduite au niveau local. C'est pas la même dynamique entre le national où LR cherche à exister et le local où il résiste à la montée du RN. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pas les mêmes enjeux. C'est très très différent. Ça fonctionne pas de la même manière. C'est ça qu'il faut garder en tête quand on parle des Républicains, c'est que c'est un parti plus complexe que ce qu'on voudrait y voir. C'est plus subtil que ça. Mais ça n'empêche pas que même localement, le Rassemblement National a réussi à attirer des élus LR. Un certain nombre d'élus LR sur les listes... Enfin, un certain nombre d'anciens élus LR qui sont aujourd'hui sur les listes du Rassemblement National montrent que le RN a quand même réussi à en séduire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc on a lu un article de Libération sur la droite, et maintenant on va lire un article du Figaro sur la gauche. Ah bah c'est la règle. Ah bah oui, évidemment. Parce que pendant que Libération constate que les Républicains résistent bien à l'alliance avec le Rassemblement National, le Figaro se désole que le PS soit séduit par les sirènes mélenchonistes. Municipal 2026, comment la gauche est tombée dans le piège de Jean-Luc Mélenchon? Terrible titre de la part du Figaro pour cet article d'analyse, de décryptage, pardon. La multiplication des alliances avec LFI dans les grandes villes illustre le caractère incontournable de cette force politique à un an de la présidentielle. Lorsqu'une élection se présente, les Insoumis mènent une campagne orchestre où chaque figure identifiée du mouvement tient un rôle bien précis. À commencer par Jean-Luc Mélenchon qui fait office de premier violon, naturellement. Avant le premier tour des municipales, Avant le premier tour des municipales, il était le principal émetteur, multipliant les grands meetings avec des prises de parole détonnantes qui prêtent le flanc aux polémiques dans lesquelles s'engouffrent systématiquement les médias. Les seconds couteaux de la France Insoumise assurent ensuite le service après-vente sur les plateaux. L'objectif est de mobiliser la base électorale en jouant toujours sur les mêmes cordes. Antifascisme, antiracisme, antisionisme, antisocialisme.
Oui, c'est plutôt ça, oui.
Enfin, je me doute que... Bref, le Figaro voit pas ça d'un bon oeil, mais oui. Venu le temps du second tour, où nous sommes rendus, un tout autre mouvement se met en place, celui des alliances. Et ici, la partition impose le silence du clivant et tonitruant insoumis pour permettre aux candidats, localement, de s'entendre avec le reste de la gauche. C'est pourquoi, après des semaines de bruit et de fureur, Jean-Luc Mélenchon s'astreint au mutisme, exception faite de quelques rares publications sur son compte X. Il reprendra la parole en meeting à Lille, jeudi soir, une fois toutes les listes déposées en préfecture. On imagine toutefois sa joie, au soir du premier tour, de voir se réaliser sous ses yeux sa stratégie. La percée historique de LFI, qu'il a immédiatement saluée sur ses réseaux sociaux, est certes relative. Il s'agit davantage d'un rattrapage au regard des dernières municipales, il y a 6 ans, lorsque LFI avait décidé d'enjamber le scrutin et obtenu en conséquence des résultats plus que médiocres. Oui, effectivement. Reste que, dans les grandes villes, le socle électoral de Jean-Luc Mélenchon s'est bien mobilisé, permettant de dépasser souvent le seuil qualificatif des 10%. À Toulouse et à Limoges, les candidats investis par le mouvement ont même réussi à dépasser leurs concurrents socialistes. Sans compter, bien sûr, les victoires dès le premier tour de Bali Bagayoko à Saint-Denis, raflées qui plus est au maire socialiste Mathieu Hanotin, que Jean-Luc Mélenchon avait osé qualifier de petit bourgeois visqueux. Et puis, il y a des promesses de réussite à Roubaix, grâce aux 46,64% obtenus par le député David Guiraud, l'un des principaux relais de LFI sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pas qu'un relais sur les réseaux sociaux, David Guiraud, c'est un député. L'enseignement tiré de ce premier tour a donc été une forme de victoire pour LFI. En se qualifiant au second tour dans de nombreuses métropoles, les candidats mélenchonistes sont parvenus à se rendre incontournables au reste de la gauche pour espérer l'emporter. Ainsi a-t-on vu dans la journée de lundi une pluie d'alliances avec les insoumis s'abattre sur la carte électorale. Toulouse, Lyon, Nantes, Strasbourg, Besançon, Limoges. J'aime bien parce que la formulation, ça fait pluie de sauterelles. En fait, c'est une calamité divine. Les alliances avec LFI, c'est une calamité. C'est terrible, c'est biblique. Et c'est tombé, ça s'est abattu sur Toulouse, Lyon, Nantes, Strasbourg, Besançon et Limoges. Et même dans des bastions historiques du socialisme, comme Brest et Clermont-Ferrand, où les élus n'étaient guère portés sur la chose. Les éminences de LFI n'ont pas boudé leur plaisir en observant le maire de Tulle, proche s'il en est de l'ancien président François Hollande, être contraint lui aussi au rapprochement avec une liste où figure un insoumis, tout un symbole. Alors, il n'y a pas que les insoumis qui se sont gossés de Tulle, il y a aussi Olivier Faure, qui n'a pas manqué de souligner que dans le fief de François Hollande, il y a une alliance avec LFI. Les buts de guerre étaient limpides. Exister dans la perspective de l'élection présidentielle, la seule échéance qui vaille vraiment pour Jean-Luc Mélenchon, accélérer la fragmentation de la gauche pour son cas personnel, se poser en rempart contre la droite et le Rassemblement national, amalgamé dans une dénomination éculée de fascisme au mépris des réalités. À 1 an de la présidentielle, notre socle est mobilisé comme jamais, nous sommes prêts, s'enthousiasme un élu LFI. La marginalité du parti, que certains croyaient acquise, est au surplus considérablement atténuée par les alliances en cascade. Tandis que les socialistes accusaient Jean-Luc Mélenchon de tenir des propos antisémites intolérables il y a moins d'un mois, déclarant qu'aucun accord national ne serait passé avec le mouvement, les voilà dans beaucoup d'endroits de France occupés à pactiser avec ses troupes. Même chose pour le reste de la gauche non mélenchoniste. La gauche fait alliance avec la gauche, quoi de plus normal ? S'étonnait Marine Tondelier mardi matin sur RTL, comme si de rien n'était. La même expliquait pourtant la semaine dernière que les accords de second tour qui seraient passés avec LFI ne pourront être des alliances comme si de rien n'était. Jamais des diabolisations n'avaient été si promptes. Ah bah ouais, LFI est redevenu fréquentable pour une bonne partie de la gauche du jour au lendemain, évidemment. Tout comme le PS est redevenu fréquentable pour LFI du jour au lendemain. Bah oui, effectivement, ce sont des alliances électorales d'entre-deux-tours. Et c'est vrai que ça se fait plus naturellement à gauche qu'à droite. Pour couronner le tout, Jean-Luc Mélenchon aimerait qu'un insoumis conquiert une grande métropole au second tour. Jean-Luc a mangé son pain blanc grâce à Saint-Denis et Roubaix, mais il a besoin de produire un discours positif dimanche soir prochain, analyse un socialiste de tout premier plan. Tous les espoirs se tournent donc désormais vers Toulouse, où François Picmal s'est placé en tête d'une liste d'union avec le reste de la gauche. Le scénario d'une défaite face au maire d'hiver droite sortant Jean-Luc Moudenc constituerait un désaveu. La gauche était effectivement majoritaire au soir du premier tour avec 54% des voix au total. Une défaite signifierait donc qu'un front anti-LFI s'est constitué derrière le maire sortant, des voix de gauche lui revenant pour empêcher LFI de prendre la ville. C'est vrai qu'une défaite à Toulouse serait dure à encaisser pour la gauche. Assez clairement, et pour LFI en particulier, mais pour la gauche en général, parce que là, l'union, elle est quand même censée gagner, d'autant que la gauche considère que Toulouse est une anomalie, qui vote toujours à gauche sur les élections nationales et qui vote à droite aux élections locales à cause des divisions de la gauche. Maintenant que la gauche est unie, il devrait gagner Toulouse. Mais s'il ne la gagne pas, ce sera compliqué. Outre Toulouse, les bons scores de LFI à Lille au premier tour laissent espérer une fusion potentiellement gagnante avec les écologistes derrière leur candidate Louaria Hadouche. Ils étaient prêts à tout pour y parvenir et obtenir ce tribut dimanche soir, indique une source au fait des négociations. Mais les Verts ont finalement préféré se rallier au maire sortant socialiste, Arnaud Deslandes, pavant ainsi la voie à sa réélection. Il se pourrait que les commentaires dithyrambiques sur la fausse percée des insoumis au premier tour fassent long feu, anticipe un stratège. À plus forte raison, si à Paris, le socialiste Emmanuel Grégoire l'emporte face à Rachida Dati malgré le maintien de la candidate LFI Sofia Chekirou. Ça, c'est pas fait. Hein. C'est pas fait du tout. Dans le cas inverse, en revanche, il serait aisé pour Jean-Luc Mélenchon d'agonir le PS pour avoir refusé de fusionner avec LFI, qui le lui proposait, rendant son ennemi juré à gauche coupable de la victoire de la droite extrémisée dans la capitale. Il se gargarisera par ailleurs d'avoir consenti, lui, au retrait de la liste de Sébastien Delogu à Marseille, qualifié au second tour avec 11,94% des suffrages, face au risque de voir le RN gagner dans la deuxième ville de France. Une façon, encore une fois, d'apparaître comme le meilleur rempart contre le RN en 2027 et d'installer encore un peu plus un duel au sommet qu'il envisage depuis de longues années. Voilà pour cet article de décryptage du Figaro qui constate effectivement que la gauche est bel et bien en train de s'unir dans beaucoup de villes de France. Hop ! À la différence de la droite et de l'extrême droite qui ne s'unissent pas, peut-être que c'est là la planche de salut de la gauche unie aux élections municipales. On verra ça dimanche soir au second tour. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on voit, par exemple, dans les trois plus grandes villes de France, qu'il y a trois stratégies différentes. À Paris, il y a le maintien des insoumis, à Lyon, il y a la fusion, et à Marseille, il y a le retrait. Ça rend la stratégie pas toujours lisible. Mais ça, qu'est-ce qu'on en retiendra au soir du second tour ? Pas grand-chose. S'il y a une victoire du PS à Paris et à Marseille et la défaite de la fusion à Toulouse, est-ce que c'est la fin d'LFI ? Non, c'est pas la fin d'LFI. C'est pas la fin d'LFI. LFI n'a pas besoin de réussir ses élections municipales pour faire des bons scores à la présidentielle. Ils l'ont démontré en 2020 et 2022. Donc bon, voilà. C'est pas déterminant, disons que ça peut être un coup de boost. De la même manière que si le PS fait de bonnes élections municipales, ça lui garantit rien pour la présidentielle. Rien. On l'a vu là aussi en 2022. C'est pas la fin de LFI, mais c'est une victoire pour la ligne Gage-Hollande. Oui, effectivement. Effectivement, François Hollande et Jérôme Guedj pourront se prévaloir de victoires autonomes sans les insoumis, voire contre les insoumis. Alors après, bon, à Marseille, c'est quand même difficile à dire, parce que si Benoît Payan est réélu maire, c'est aussi en partie grâce au retrait de Sébastien Delogu. Alors certes, il n'y a pas eu de fusion, mais bon. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, comme disent les sociétés d'investissement. Ouais, c'est assez vrai. Ouais, c'est assez vrai. Bah, on l'a vu, enfin, on verra aussi. Merci Slickstix. On verra pareil pour Place Publique. Hein. C'est pas parce qu'ils font des bons scores aux élections européennes qu'ils font des bons scores dans les autres élections. Est-ce que ça va être Paris le vrai révélateur du vote utile? Non. Non, par contre, ce que Paris a démontré, c'est que l'alliance PS-écolo-PCF fonctionne bien. Bon, mais ça, on l'a constaté dans plein d'autres villes, d'ailleurs. Et c'est pas très surprenant pour trois partis qui sont relativement bien implantés localement, surtout le cas pour le PS et le PCF. Oui, dans une ville ultra-bourgeoise. Oui, comme Paris. Oui, bien sûr. Glucksmann qui se targue dans Le Parisien d'avoir 60 retraits de candidats place publique et 19 procédures d'exclusion à venir. Est-ce que place publique s'améliorerait en se purgeant? Le pari de Raphaël Glucksmann, c'est de réussir à créer une identité très forte politiquement dans le rejet de la France insoumise. Et pour ça, il est prêt à aller jusqu'au bout. Ça peut lui bénéficier pour une élection présidentielle. Pour d'autres élections, non. Mais Glucksmann, il a que la présidentielle en tête, pas les municipales. Oui, mais des législatives après une présidentielle réussie. Ah mais ça, on verra. Chaque combat en son temps. Chaque combat en son temps. Mais oui, c'est si. Mais ça, on aura le temps d'en discuter sur cette chaîne. Abonnez-vous, évidemment, parce qu'on va en parler de ça. Si Raphaël Glucksmann réussit sa présidentielle, s'il fait un bon score au premier tour, il espérera transformer l'essai aux élections législatives et pourquoi pas avoir un groupe de députés à l'Assemblée nationale. Ce qui serait un tour de force énorme pour un petit parti. Comme place publique, ce serait pas mal. Si Glucksmann n'a pas le soutien du PS, je le vois toujours pas se présenter. Si le PS décide de faire une alliance avec les écolos et les anciens insoumis de l'après François Ruffin, etc., je pense que Glucksmann se présentera à la présidentielle sans le soutien du PS. On verra, mais je pense que Glucksmann se dirige vers une candidature à la présidentielle. Donc, mais ce qui est clair, c'est que enfin, place publique ne joue pas un rôle déterminant dans ces élections municipales. Hein. Le soutien de place publique à des listes, c'est le soutien de quelques militants locaux de place publique qui sont venus prêter main forte. Ils ont peut-être un ou deux candidats sur la liste. C'est pour ça, quand j'entends des candidats place publique dire « je me retire de la liste en raison de l'alliance avec la France insoumise », moi, je ramène ça au poids politique réel de place publique localement. Je dis « oui, non, c'est pas très grave. On a perdu Michel, on a perdu Michel. Ben, on a perdu Michel. C'est pas le bout du monde. Pas très grave. » Le fait que Chikirou, à l'échelle de Paris, fasse un moins bon score dans chaque bureau de vote que tous les candidats LFI à l'échelle de chaque arrondissement, est-ce que ça dit quelque chose? Ah bah, que Chikirou est une personnalité clivante, oui. Oui, bon, ça, il n'a pas fallu un premier tour pour qu'on l'apprenne. Oui, voilà. Hollande va le débrancher et se substituer à lui dans l'espace politique qu'il a ouvert. C'est possible! C'est possible. Moi, je vois bien François Hollande tenter une candidature à l'élection présidentielle. Et effectivement, si Hollande se déclare candidat, c'est chiant pour Raphaël Glucksmann. Parce qu'ils sont à peu près sur le même espace politique. On appelle ça la social-démocratie, qui est entre le PS et les macronistes. Quand on pense que Place Publique a été fondée sur l'échec du quinquennat Hollande, c'est cocasse. Ouais, absolument. Absolument. Mais c'est pour ça que ce sera un argument pour Raphaël Glucksmann à ce moment-là. Ce sera de dire aux électeurs, ne réalisez pas François Hollande, préférez une nouvelle version. On verra si ça tient, hein. Le fait qu'Hollande ait déjà été président, est-ce que c'est pas un handicap pour sa candidature? Bah, c'est-à-dire que Hollande au pouvoir, on sait déjà ce que ça donne. Alors soit on a été mécontent de son bilan, et donc on n'a pas vraiment envie de revoter pour lui, soit à l'inverse, on est un peu nostalgique de ces années-là et on trouvait que ça avait de la gueule, auquel cas on peut être tenté de revoter pour lui. En tout cas, dans l'histoire, le retour d'un président, c'est jamais arrivé. Il y a eu Charles de Gaulle, 1945-46, puis 1958. Ok, contexte différent, réalité différente, un peu compliqué. Sarkozy a essayé, il n'a pas réussi. Mais Hollande comme Raphaël Glucksmann vont évidemment tenter de rassembler, y compris à gauche, sur le rejet de la figure de Jean-Luc Mélenchon, qui est une des personnalités politiques les plus rejetées. Donc, est-ce que c'est une base suffisante pour construire une adhésion et un score impressionnant au premier tour, c'est pas sûr du tout. Est-ce que tu penses que Macron réessayera en 2032? Je sais pas du tout. Ça va dépendre de tellement de facteurs. Je sais pas. Macron est un président jeune, c'est tout ce que je sais. Macron, c'est le plus jeune président qu'on ait eu. Il va pas mourir demain matin. Est-ce qu'il va vouloir revenir en politique et retenter sa chance, c'est possible. Mais à ce stade, j'ai pas d'éléments qui me permettent de le dire, quoi. Mélenchon est surtout rejeté par les médias, pas par le peuple. Ouais. Plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut faire plus de deux mandats de président ? Oui, on peut faire plus de deux mandats de président, on ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Mais rien ne lui interdit de se présenter à celle de 2032. Ou 2037. Donc, c'est quand même beaucoup trop tôt pour faire des plans sur la comète, sur l'avenir politique d'Emmanuel Macron qui n'a même pas encore fini son deuxième mandat. On est sûr que c'est JLM qui se présentera, ça pourrait pas être quelqu'un d'autre de LFI. Tout est possible, rien n'est fermé à ce stade. Mais Jean-Luc Mélenchon reste le chef de la France insoumise et il a déjà fait trois candidatures à l'élection présidentielle. Ce serait et puis il n'a fait qu'améliorer son score. Donc en fait, je pense qu'il est le meilleur Pokémon à aligner sur la ligne de départ, quoi, pour la France insoumise. Avec les limites que ça, le niveau de rejet de la personne de Jean-Luc Mélenchon est très impressionnant. Au second tour, ça va être très compliqué, mais le challenge est de réussir déjà à y arriver au second tour. Combien de fois a-t-il assuré, limite juré, qu'il ne reviendrait plus ? Qui ça, Mélenchon ? Jamais. Mais Mélenchon n'a jamais insulté l'avenir. Hein. Bah, il aura eu tort. L'enjeu de la présidentielle, c'est surtout être au second tour. Ouais, enfin, gagner le second tour aussi, c'est pas mal. Enfin, j'ai dans l'idée que c'est une élection et que le but, c'est de gagner à la fin. Ça fait partie aussi de... Disons que ça fait partie de l'équation. Mais c'est vrai qu'arriver au second tour, ça ferait du bien à la gauche. Sachant que la gauche n'a été que deux fois au second tour au cours du XXIe siècle. Que deux fois? Bah ouais, que deux fois. Après, ça dépend ce que toi t'appelles la gauche. Toujours pareil. C'est toujours pareil, mais ouais. Zéro fois. Ouais, c'est ça, zéro fois. C'est-à-dire, bon, si tu considères que la gauche en France s'est née en 2016, effectivement, la gauche n'a jamais été au second tour. Si par contre, tu es du Rassemblement National, tu vas considérer que la gauche, elle a toujours été au second tour. C'est le poison de la vie politique française. Indécrottable. La gauche, elle est au pouvoir depuis 40 ans. Et alors, si t'es... comment il s'appelle ? Si t'es Éric Zemmour, alors là, c'est encore pire. Si t'es Éric Zemmour, alors là, il n'y a que la gauche qui gouverne le pays depuis des siècles. elle est tout le temps au second tour. D'ailleurs, elle ne se bat qu'entre elles, hein, au second tour. Elle fait semblant de se battre, mais en fait, au fond, ils sont d'accord entre eux. Ouais, non, c'est bon. La monarchie, c'était de gauche quand on y pense. Mais oui, la monarchie, les rois, là, les rois, les mecs en collant, là, qui faisaient de la danse. Hein, bon, hein, voilà, non mais... Pour Éric Zemmour, ça fait un peu... Hein, bon, bref. Voilà. C'était des drag queens. C'était des drag queens. Des mecs en perruque, là, tout poudré. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La gauche n'a jamais été au pouvoir depuis Léon Blum. Ouais. Et même encore avant ça, depuis la Constituante. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si, attendez. Ah bah si. Non mais bon. On a lu un article de Libération sur la droite, on a lu un article du Figaro sur la gauche. Donc ça, on est content. Et maintenant, on va lire un article du Monde. Bon, remettre l'église au milieu du village, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Hein. Oubliez cette catégorisation débile. C'est l'édito du Monde. C'est l'édito du Monde qui est sorti ce matin. Municipal 2026, à gauche, des alliances dans la confusion. Ah ! En laissant les candidats d'Union de la gauche déterminer localement leur stratégie en fonction des résultats du premier tour et de leurs convictions personnelles, l'ambiguïté des états-majors à Paris peut susciter l'incompréhension d'une partie des électeurs. Ah ah ! 48 heures après la fin du premier tour des élections municipales, les candidats restants en lice ont déposé leur liste mardi 17 mars au soir en préfecture. Ces deux jours de tractation ont placé une nouvelle fois la gauche social-démocrate face à une question centrale, un an avant l'élection présidentielle. Quelle attitude adopter face à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ? Alors que l'ensemble des électeurs de gauche, dans leur globalité et leur diversité, seront indispensables pour battre l'extrême droite en 2027, l'ambiguïté stratégique des états-majors à Paris a rendu un peu plus illisible la relation entre les partis opposés au niveau national et pourtant liés par des intérêts électoraux convergents au niveau local. Contrairement à ce qu'affirme M. Mélenchon, les candidats de LFI sont loin d'avoir réussi des percées partout, notamment si l'on compare leur score aux résultats des élections européennes de 2024. Mais beaucoup étaient en position d'entraver les candidats socialistes et écologistes et de faire perdre une gauche pourtant majoritaire dans la plupart des métropoles. À Marseille, où d'évidence le retrait du candidat LFI s'imposait face au Rassemblement national, dès dimanche soir, le réflexe de barrage républicain au sein même de la gauche a tardé à se mettre en place. Ouais, même à Marseille. Même à Marseille, ça a été long. À la tête d'une formation affaiblie, dont les mairies sont devenues des bastions vitaux et pressées par les insoumis de faire des fusions techniques, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure s'est réfugié derrière un truisme. Les élections municipales étant avant tout un scrutin local, il n'y a pas d'accord national. Cette prise de distance évidente étant posée, il n'y a rien de décidé. Et ça, on l'avait dit sur le plateau de Baxit. C'était Emilio qui l'avait rappelé sur le plateau de Baxit. Quand le bureau politique national du Parti socialiste dit « il n'y aura pas d'accord national », en fait, ça veut dire qu'il y aura des accords locaux. Et ça veut même dire « on vous fout la paix et on vous laisse faire des accords ». Les candidats d'Union de la gauche ont dès lors déterminé leur stratégie en fonction de la sociologie de leur commune, des résultats du premier tour et de leurs convictions personnelles. À Paris et à Marseille, Emmanuel Grégoire et Benoît Payan ont respectivement refusé de se rapprocher de Sophia Chikirou, qui s'est maintenue, et de Sébastien Delogu, qui s'est retiré. À Nantes, à Brest ou encore à Lyon, les socialistes ou les écologistes ont choisi d'entremêler leur liste avec celle des insoumis. Dans la grande majorité des cas, ces rapprochements n'ont pas eu lieu pour éviter l'élection de l'extrême droite, mais pour conserver des mairies ou pour tenter d'en reconquérir d'autres face à la droite, comme à Limoges ou à Toulouse. Dans nombre de municipalités, ces fusions ne sont pas illogiques. Des programmes insoumis et socialistes ne sont pas si éloignés. Pardon. Les programmes insoumis et socialistes ne sont pas si éloignés. Et il existe un réel désir d'union de la gauche chez des sympathisants fatigués par près de 9 ans de macronisme et inquiets de la dynamique du RN. Ça, je suis d'accord avec ça. Ça, je suis d'accord avec ça. Localement, les propositions programmatiques, les grandes orientations programmatiques des insoumis et des socialistes ne sont pas si éloignées que ça. Et il y a un désir d'union des sympathisants au niveau local, surtout quand il y a un danger RN. Mais ce pragmatisme électoral est aussi incompréhensible pour une autre partie des électeurs. Il y a 2 semaines, le PS condamnait les caricatures complotistes et les propos antisémites intolérables de Jean-Luc Mélenchon, après les récentes polémiques autour de la manière qu'a eu le leader insoumis d'ironiser sur les patronymes juifs Epstein et Glucksmann. À ce moment-là, les cadres du PS appelaient localement les militantes et les militants insoumis à se désolidariser clairement et pleinement de ces propos. Le fonctionnement centralisé de LFI étant ce qu'il est, les candidats de ce parti n'ont pas pris leur distance avec leur leader, ce qui n'a pas empêché les responsables du PS d'accepter les mains tendues. Bah oui. L'entre-deux-tours aurait pu être un moment de clarification, il n'aura fait que renforcer la confusion. Voilà pour l'édito du Monde sur ces alliances à gauche avec cette idée forte qui est que on nage en pleine complexité. À défaut de position claire, nationale, de la part des états-majors des partis, et ben localement, il se passe des choses différentes en fonction des villes, dans des configurations locales, certes différentes, mais qui peuvent présenter des dangers similaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, la confusion règne et rien n'est réglé? C'est pas signé, je trouve ça pas ouf. Ça s'appelle un édito. J'ai connu des complexités moins complexes que ce deuxième tour des municipales. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la clarté dans la confusion. Je trouve ça assez clair, franchement. Ok. C'est tout à fait normal de s'adapter aux situations locales. Ouais. C'est plus compréhensible que la dissolution. Et encore. Pas du tout, Tondelier, elle applique sa strat et ça marche. Alors, tout Tondelier, depuis le début, sa strat, ou plutôt sa position, c'est celle de l'union. Il se trouve que l'alignement des planètes fait qu'il y a des unions à peu près partout. Donc forcément, Marine Tondelier, elle en ressort renforcée dans sa posture depuis le début. Mais est-ce que c'est grâce à elle ou est-ce qu'elle n'est que contextuellement au bon endroit, au bon moment? Les candidats de gauche qui refusent une union avec LFI quand la seconde liste c'est le RN, bof. Et inversement. Et inversement. Quel propos antisémite, il y a eu des condamnations, c'est pas de la diffamation. Bah vas-y, porte plainte. Va expliquer à un juge que des blagounettes sur des noms de famille juifs, c'est pas de l'antisémitisme. Si tu veux. Pour moi, ça veut dire que même pour les politiques, le niveau local commence à se désolidariser des directives des politiques nationaux. le dédain envers les élites. Ah, tu penses qu'il y a un rejet des politiques nationaux et que tout se joue au niveau local? Je sais pas. Peut-être que ça pourrait s'expliquer de cette manière-là. Avec des partis très décentralisés. En même temps, c'est le cas pour le PS, dans une certaine mesure. C'est le cas pour les écolos. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Quel est le réel enjeu de ces élections locales par rapport aux élections nationales à venir? Pas énormément. Pas énormément parce qu'on a vu par le passé que des élections locales ne donnaient pas nécessairement d'indication sur les élections nationales. Autrement dit, les partis politiques qui performent au niveau local ne sont pas toujours les partis politiques qui performent au niveau national. C'est des élections différentes sur des enjeux différents, avec une très forte volatilité des électorats. Donc, moi, je nous invite collectivement à être prudents. Oui, t'as le Sénat. Oui, t'as les élections sénatoriales qui sont pas des élections déterminantes nationalement. Les élections sénatoriales, ce sera en septembre et on verra effectivement, on retrouvera les équilibres, enfin, les équilibres globaux de ces élections municipales, on les retrouvera dans les élections sénatoriales. Mais c'est pas très déterminant. Les élections nationales, c'est les élections présidentielles et législatives. C'est celle-là qui compte. C'est celle-là qui dirige clairement l'action politique du gouvernement. Sinon, c'est quoi le pourcentage de listes sans étiquette? Ça, j'en sais rien. Puis à partir de quand est-ce qu'une étiquette est une étiquette? Si tu crées un collectif d'habitants, est-ce que c'est sans étiquette? Je veux dire, tu peux inventer des étiquettes locales, hein. Est-ce que Debout la France est une étiquette? Oui, Debout la France est un parti politique national qui peut présenter des candidats aux élections locales, ouais. Beaucoup de sans-étiquette sont juste des fascistes déguisés. Ouais. Je me permettrai pas de dire que les collectifs d'habitants qui se présentent aux élections municipales sont des fascistes. Je pense que ça, ouais, ça varie beaucoup. Comment savoir de quel bord sont les candidats quand ils mettent sans étiquette? Tu peux pas savoir, faut regarder leurs propositions, écouter leurs discours. Et toi, tu es libre d'accoler l'étiquette que tu souhaites aux listes. Chez moi, si tu regardes juste les propositions consensuelles d'un candidat, tu peux ne pas comprendre qu'il est chez Zemmour. Oui, non, non, mais après, oui, effectivement, tu peux avoir des candidats qui proposent que des choses ultra locales, mais qui par ailleurs, à titre personnel, ont des idées parfois radicales d'un point de vue ou d'un autre. C'est possible. Le ramassage des poubelles, c'est droite ou de gauche? Oui, voilà, c'est ça, le ramassage des ordures, les activités périscolaires pour les enfants. Mais je vous rappelle, c'est ce qu'on disait au début du stream, c'est que dans plus de 90% des communes, l'élection a déjà eu lieu au premier tour. Il n'y a pas de second tour. Soit c'était des communes avec une seule liste, soit c'était des communes avec deux listes. Et dans ce cas-là, il n'y a besoin que d'un seul tour de scrutin. Je fais partie des 90%. Attention, 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 attention. Je vous ai dit 90% des communes. Je ne vous ai pas dit 90% des Français. La majorité des Français vivent dans une minorité de communes. Les grandes villes, les grandes communes. Donc, le second tour qui a lieu dimanche, là, va concerner peu de communes, mais beaucoup de gens. Voilà. L'assainissement des égouts, c'est de droite ou de gauche? Non, mais après, c'est important parce que il faudrait pas non plus dépolitiser le rôle du maire en disant que finalement, un maire n'est rien d'autre qu'un gestionnaire. Finalement, c'est un super fonctionnaire qui ne fait que de la gestion, etc. C'est pas vrai. Je me souviens qu'aux élections municipales de 2014, c'était Robert Ménard qui avait déclaré « Quand un lampadaire est défectueux et qu'un employé municipal le répare, c'est ni de droite ni de gauche ». Et ça, c'est vrai. Mais parce que là, on parle d'un acte de réparation d'un réverbère, on s'en fout. Le rôle d'un maire, c'est pas de réparer les réverbères cassés. Le rôle d'un maire, c'est de prendre des décisions et de mener des politiques avec des priorités, notamment budgétaires, en faveur de mettre des réverbères dans tous les quartiers, par exemple. Et il y a des politiques publiques locales de droite et de gauche. Il y a des angles politiques, il y a des décisions, je veux dire, des décisions qui ne sont pas neutres. Alors, on peut prendre la décision individuellement en disant « mais ça, est-ce que c'est neutre ou pas ?» Enfin, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? Mais ce n'est pas la décision qui compte. Ce qui compte, c'est l'architecture, par exemple, du budget. Où est-ce qu'on met la priorité? Qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on arrête de développer? Où est-ce qu'on met l'accent? Et ça, ce n'est pas neutre. C'est politique. Et c'est très bien que ce soit politique, ça sert à ça. Et le conseil municipal est là pour en délibérer. La décision d'éteindre les réverbères, c'est politique. Si tu décides d'éteindre les réverbères dans les quartiers pauvres, c'est politique. C'est un choix. C'est une décision que tu fais pour tes raisons. Si tu décides de ne pas faire de rénovation urbaine dans les quartiers les plus pauvres, si tu décides de prioriser les quartiers les plus commerçants, les quartiers les plus passants, le centre-ville, machin, c'est un choix. C'est pas grave, hein, ça peut se justifier politiquement, c'est ton choix. Et c'est une délibération du conseil municipal. Mais ne me fais pas croire que c'est neutre. C'est un choix. Rénover les quartiers pauvres ne génère pas de la gentrification. Il ne faut pas rénover les quartiers pauvres, alors. Ça, je te laisserai en débattre en conseil municipal avec les habitants de ces quartiers. Chez moi, les lampadaires restent allumés dans les quartiers pauvres, donc c'est politique aussi. Tout est politique. Enfin, tout est politique. Enfin, Le problème de cette phrase « tout est politique », c'est qu'elle est débile, c'est une phrase absolue. Et c'est, les phrases absolues, c'est toujours un peu con. Ça veut rien dire, il faut rentrer un peu dans le détail et dans la précision. L'action publique et l'inaction publique sont des choix, sont des décisions. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de candidats aux élections municipales proposer monts et merveilles dans leur programme. Très sexy, ça donne envie, c'est super. La réalité vraie du vrai monde, de la vraie vie véritable, c'est que tu n'auras pas le budget. Tu n'auras pas les marges de manœuvre budgétaires pour le faire. Tu peux essayer, tu peux impulser, tu peux faciliter, tu peux tendre vers, mais tu ne vas pas tout faire. Tu vas devoir prendre des décisions, faire des choix, assumer des priorités. Et ça, c'est, bah ça, c'est le conseil municipal. C'est le budget. C'est... Typiquement, le programme de CNAFO à Paris était ridicule. Oui, j'ai cru comprendre que Sarah CNAFO, je ne l'ai pas lu dans le détail, mais j'ai cru comprendre qu'elle avait proposé effectivement des trucs complètement irréalistes, des trucs qui ne relèvent pas du tout de la compétence municipale. Il y a des mecs qui disaient « Ouais, les policiers municipaux vont faire des contrôles d'identité. » Alors non. Ça, non. On va réquisitionner les logements vides. Non. Tu ne vas pas faire ça. T'as pas le droit, tu peux pas. En fait, c'est juste pas une compétence municipale. Tu peux mener une politique très active en faveur du logement, etc. Ah, ça, tu peux faire plein de trucs. Mais voilà, quoi. L'opposition disait ça pour la gratuité des transports à Montpellier. Le résultat, c'est faisable. Oui, mais attention, là, pareil. Attention, il n'y a pas d'argent magique, etc. La gratuité des transports à Montpellier, ça a coûté beaucoup d'argent. C'est un choix budgétaire de mettre la priorité là, ça veut dire qu'en échange, on ne va pas pouvoir faire des choses merveilleuses pour la culture, pour l'éducation, pour machin. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire ou qu'on va tout arrêter, mais on a fait un choix. Et c'est plutôt un bon choix. Enfin, moi, je sais pas, je ne suis pas montpelliérain. Je ne connais pas la ville de Montpellier. Mais très bien, la gratuité des transports, super. C'est un acte fort. Et cet acte, il a une traduction budgétaire avec du pognon qu'on va mettre là-dedans et qu'on va pas mettre ailleurs. Ok. Et bien, bah, si on vote, on vote. Et on avance. Donc, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on avait la même discussion quand on parlait du budget national français. Rappelez-vous tous les streams qu'on a fait avec François Bayrou qui alertait sur la dette, avec Sébastien Lecornu qui disait il n'y a pas d'argent magique, etc. C'est toujours la même logique. C'est faire des choix politiques, assumer des choix politiques, une politique de l'offre, faire le choix de réduire la pression fiscale sur les entreprises pour leur permettre de créer de la croissance et de l'emploi, ça se traduit directement par des pertes de recettes fiscales qui empêchent l'État de mener de politiques par ailleurs. Et c'est le fruit d'un choix. C'est pas « Ah bah ma pauvre dame, on n'a plus d'argent. Bah, » Oui, on a choisi de plus avoir d'argent. C'est un point de vue. Ben c'est comme la loi de Kasbarian sur les squats qui a jeté à la rue des dizaines de milliers de familles. Voilà, c'est un choix. Tu en parlais du logement tout à l'heure avec la réquisition des logements vides. Le problème, c'est que dans les communes, il y a plein d'obligations qui limitent l'action volontaire de la commune. Absolument. Ah ouais. Par ailleurs, la commune, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Et la commune, elle fait des choses parce qu'elle a l'obligation de les faire. genre construire une école ou entretenir une école, c'est obligatoire. C'est pas au choix. C'est une compétence légale, c'est une attribution légale à la commune, et la commune doit faire. Obligation sous peine d'amende, obligation sous peine de réquisition par la préfecture. Hein. Vous savez, quand vous êtes une collectivité locale, vous avez un gendarme au-dessus de vous qui s'appelle la préfecture et qui peut frapper de nullité les décisions du conseil municipal en cas d'illégalité et qui peut aussi faire à la place des collectivités par réquisition. Voilà. On appelle ça le contrôle de l'égalité. Exactement, on appelle ça le contrôle de l'égalité qui est effectué par le préfet. Et c'est le rôle du préfet. Ça arrive souvent, hein, le préfet qui annule des décisions du conseil municipal parce qu'il estime qu'elles sont illégales, qu'elles contreviennent au cadre législatif. Et la mairie décide de porter l'affaire devant le juge administratif pour obtenir l'annulation de l'annulation. Qui choisit les préfets ? C'est le ministre de l'Intérieur. Je pensais que c'était le Conseil d'État qui faisait ça. Le Conseil d'État juge les décisions des cours d'appel, qui juge les décisions des tribunaux administratifs, qui juge les décisions des préfets, qui juge les décisions des conseils municipaux. À gros traits, c'est ça. La cassation, c'est le Conseil d'État. La Cour de cassation, c'est la Cour suprême, on va dire ça, de l'ordre juridique judiciaire. Le Conseil d'État, c'est la Cour suprême de l'ordre administratif. Voilà. En France, on a deux cours suprêmes. Au vu du nombre de maires de droite, d'extrême droite et du centre PS inclus, peut-on s'inquiéter de la possibilité de Jean-Luc Mélenchon à recueillir les signatures pour se présenter ? Bah, jusqu'à présent, il n'a pas eu de difficulté, Jean-Luc Mélenchon. J'ai du mal à imaginer qu'il galère à récolter les 500 signatures. Il s'est présenté en 2012, en 2017, en 2022. Comment ils font lutte ouvrière avec les parrainages ? Ben, ils vont les chercher. Non mais... tous les 5 ans, c'est le même sketch où on se pose la question de savoir comment faire pour avoir 500 signatures et tout. Lutte ouvrière, ils vont chercher les signatures. Lutte ouvrière, ils sont très bien organisés. Ils ont des militants dévoués. Ils prennent leur bagnole, ils vont rencontrer les maires et ils vont lui demander une signature. Voilà. Et ils sont très bien organisés. Et ils s'y prennent longtemps à l'avance. Est-ce qu'on peut demander des signataires aux conseillers municipaux? Non, sauf dans les très grandes villes. Il y a, alors de mémoire, il y a 42 000 parrains potentiels. T'as tous les maires, t'as tous les conseils départementaux, conseils régionaux, t'as le conseil de Paris, t'as les assemblées locales en Corse, outre-mer aussi, tu as les députés, les sénateurs. Enfin, je me souviens de la stat, en tout cas, de 42 000 parrains possibles. Et sur les 42 000, sur les 42 000 parrains, il n'y en a que 6, 5 ou 6 000 qui donnent leur parrainage. Et je crois même que c'est moins que ça, je ne me souviens plus du chiffre exact. En fait, l'écrasante majorité des parrains ne parrainent personne. Voilà, ils veulent pas. Les maires d'arrondissement aussi, ouais. Les maires d'arrondissement aussi. Ouais, absolument. Est-ce qu'il y a des conséquences sur les parrains qui donnent leur parrainage? Non. Il peut y avoir des conséquences politiques si leurs électeurs sont pas contents, mais ça, c'est leur problème. Le parrainage est rendu public. Oui, le parrainage est rendu public. Est-ce qu'on peut parrainer plusieurs candidats? Non, un seul parrainage possible. Donc voilà. Un maire et conseiller départemental, il a deux parrainages ou un seul? Un seul. C'est nominatif. Donc à ce stade, les électeurs. Ah, par contre, si, tiens, il y a un point important, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les conseillers municipaux que vous allez élire dimanche vont siéger pendant 7 ans. Pourquoi? Parce que si on faisait un mandat de 6 ans comme d'habitude, ça tomberait la même année que la présidentielle de 2032. Donc les conseils municipaux vont siéger jusqu'à l'année suivante, 2033. Et c'est là qu'on fera de nouvelles élections municipales. Ce qui veut dire que les conseillers municipaux et les maires vont être là pendant deux présidentielles. Sauf en cas de dissolution, ça n'a rien à voir la dissolution. Dissolution, ça ne concerne que l'Assemblée nationale, pas les collectivités locales. Donc voilà. Donc il y aura trois présidents. Il y aura trois présidents. Enfin, sauf si en 2032, on réélit Emmanuel Macron. Du coup, ça fera que deux présidents. En quoi ça gêne que ce soit la même année que la présidentielle? Ah non, mais c'est impossible de faire une élection présidentielle en même temps qu'une élection municipale. T'imagines la gueule de la campagne? Non, ça paye. Non, non. On mixe pas les élections. On fait pas deux élections la même année, sauf c'est déjà arrivé qu'on fasse des régionales et des départementales la même année. En même temps, même, le même jour. Ça, c'est déjà arrivé. Alors, ça y est, on a le nom du porte-avions. Le porte-avions va s'appeler le France Libre. C'est à chier, non? Pardon. Alors, je m'y connais pas je m'y connais pas en nom de bateau en général. Personne m'a jamais demandé mon avis et visiblement on a eu raison. Mais c'est un peu nul. Le France Libre. Enfin, non, mais je comprends l'idée. C'est oui, d'accord, c'est pas mal, mais non, c'est nul, c'est naze. Pourquoi ils n'ont pas choisi le Richelieu là? Apparemment, c'était le nom qui était le plus. Je sais pas, il y avait plein de gens qui disent, des observateurs apparemment mieux renseignés que moi, qui disaient a priori on se dirige vers le Richelieu ou peut-être le Marie Curie. Je dis bon, d'accord, à la limite. Non, mais ça a de la gueule le Richelieu, tu vois. Voilà, l'histoire de France, Richelieu, c'est le mec qui a inventé l'État quand même, pardon, mais bon. Il y a du cachet, tu vois, il y a du panache. Un nom de femme, ça aurait été génial, le Marie Curie, le Simone Veil, etc. Voilà, il y avait des idées, il y avait des trucs, tu vois. Bon, après, il y avait toutes les blagounettes qu'on a faites sur Blue Sky qui étaient très drôles, qui étaient très drôles. Abonnez-vous à mon compte Blue Sky, évidemment. Mais pas le France Libre. Non, si, je sais pas. Moi, je trouve ça à chier. Il faut un nom à résonance internationale. Non, alors, le France Libre a le mérite d'être compréhensible par les Américains. Je veux dire, un immense demeuré comme Donald Trump, il est capable de comprendre ce que ça veut dire. Free France. D'accord, Donald? Voilà, c'est ça. Bon, alors peut-être qu'effectivement, peut-être que dans le contexte international dans lequel on est actuellement, Macron s'est dit, bon, le plus important, c'est de se faire comprendre par l'autre débile orange, là. Bon. Non, mais à ce moment-là, je veux dire, si tu veux te faire comprendre par les Américains, c'est sûr, c'est plus subtil, mais tu peux l'appeler le Lafayette. Lafayette, petit reminder à nos amis américains, hein, que, hein, voilà, hein, la France, les États-Unis, à bon entendeur, voilà. Trump a pas la ref. Non, Trump, il a pas la ref. Trump, il a pas la ref. Celui que je vous dise. Il existe déjà le Lafayette. Bon, c'est pas grave, ça. Oh là là. Ouais, c'est bon, hein. On peut appeler deux fois un bateau de la même manière, hein. Le baguette. Voilà, le baguette. Non, mais le France Libre. Bon, bah, le France Libre, bah, voilà, il va s'appeler le France Libre. Non, mais bon, encore une fois, oui, ça a le mérite d'être straightforward. Ça a le mérite d'être straightforward. Le France Libre, c'est le bateau symbole de l'autonomie militaire, stratégique, nucléaire de la France. Ok. Ok. Par ailleurs, il ne faut pas oublier un élément important, hein, c'est que j'en ai pas grand-chose à foutre du nom du gros bateau. Ouais, non, mais d'accord, mais bref, ouais. Le Résistance, ça c'est classe. Le Résistance. Bref. En plus, dans le contexte politique, c'est pas mal, le Résistance. Alors, vous imaginez si c'est Jordan Bardella qui fait l'inauguration du Résistance ? Ça va me gonfler. Parce qu'en plus, le bateau là, on commence sa construction aujourd'hui. Enfin, on pose la première pierre. Enfin, c'est un peu symbolique, mais vous avez l'idée, quoi. Il sera mis à l'eau en quelle année ? C'est 2038. 2038. Donc 2038, ce sera le quatrième mandat d'Emmanuel Macron, puisqu'il aura été réélu en 2032, puis réélu en 2037. Et donc ce sera Emmanuel Macron qui mettra à l'eau le bateau qu'il a lui-même inauguré aujourd'hui. Ou alors, ce sera le troisième mandat de Jordan Bardella, parce qu'il aura révisé la Constitution pour permettre de se présenter une troisième fois d'affilée. Alors, vraie question importante. Est-ce que un nouveau président de la République peut changer le nom du bateau ? Parce que techniquement, dans le monde du bateau, de la voile, du nautisme, etc., moi, on m'a appris que tu nommes un bateau à l'occasion de son baptême, pas à l'occasion du début de sa construction. La réponse est oui. Ah, la réponse est oui. La réponse est oui. Donc Jean-Luc Mélenchon, quand il sera élu président de la République, pourra renommer le bateau le Führer et le Fracas. Il y aura deux bateaux jumeaux. On envoie le Führer et le Fracas dans le détroit d'Ormuz. Ouais, Führer, c'est tendancieux. Ouais, je te l'accorde. Führer, le mot peut être mal interprété. Bon, bah, ça veut dire. Non, mais c'est bon. Ça veut dire que le France Libre va peut-être être renommé, quoi. Merci, qu'il lui suffise. Merci beaucoup. Ah, il y a PDG Insoumis qui n'a pas aimé ma blague. C'est normal. Ça fait partie des règles. Le Cosa Nostra. Ouais, bah, ça veut dire que le prochain président de la République va peut-être... Merci, Makikar. Le prochain président de la République va peut-être se reposer la question du nom du bateau et on va changer le nom du bateau. Bah très bien, ça veut dire qu'on aura à nouveau ce débat. Ça veut dire qu'on aura à nouveau ce débat. Ça va être bien. Ça va être très très bien. On pourrait l'appeler le Fusion. On pourrait l'appeler l'Union de la Gauche. Le nom du bateau. L'Union de la Gauche, ouais. Mais seulement entre les deux tours des élections. Le reste du temps, la gauche se tape dessus, c'est important. Le NUPES. Il va pas tenir longtemps. Le Forchour. Est-ce qu'on a tout dit sur les élections municipales ? Est-ce qu'on a tout dit sur les élections municipales ? Non, évidemment, parce qu'il y a quand même 35 000 fucking communes dans ce pays. La morale de l'histoire à ce stade, c'est que ces élections municipales sont illisibles, que les stratégies des partis sont illisibles parce qu'elles sont faites sur le terrain avec des différences d'appréciation dans des situations similaires qui rendent le truc complexe. La gauche s'unit dans la grande majorité des cas lorsque c'est nécessaire, pas toujours, notamment à Paris, où elle ne s'unit pas. Tac, tac, tac. Mais Paris ne doit pas effacer la réalité dans toutes les autres villes. La droite et l'extrême droite ne font pas d'union, sauf à quelques exceptions près. On aurait pu s'attendre à des fusions. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un moment de vérité pour les Républicains et à ce qu'ils fassent des unions avec le Rassemblement national dans beaucoup de villes, et la réponse est non. Ils ne le font pas, dans la plupart des cas. À Paris, la gauche est unie, c'est juste LFI qui voulait faire les gaillards en y allant tout seul. C'est une autre manière de voir les choses. Mais dans d'autres villes, il y a quand même eu des unions entre les listes d'union et LFI. Et disons que dans l'union, il n'y a pas tout le monde. Si Dati se fait élire, est-ce qu'il peut y avoir une réélection si elle est inéligible lors de son procès ? Si Rachida Dati perd son mandat de maire par décision de justice, on ne refait pas d'élection municipale. C'est le Conseil de Paris qui élit un nouveau maire. Nouveau maire qui sera de la même couleur politique que Rachida Dati, puisque c'est la même majorité. Est-ce que LFI déteste plus le PS que le PS déteste LFI ? Ni l'un ni l'autre, puisqu'ils sont en train de s'unir. Ils se remettront sur la gueule à partir de lundi, mais là, c'est la semaine de l'alliance. Si par exemple l'inéligibilité vient d'une ingérence dans ladite élection, c'est toujours le Conseil ? Non. Le Conseil constitutionnel peut annuler l'élection si jamais il y a un vice dans l'élection. Mais ça n'a rien à voir avec l'élection de la maire. C'est dans le scrutin qu'il y a eu un problème. Est-ce qu'on peut être maire et député ? Il se passe quoi si Piquemal devient maire de Toulouse ? Il quitte son poste de député. Oui, on ne peut pas être maire et député. C'est interdit par la loi. On doit choisir entre son mandat de maire et son mandat de député. Si François Piquemal est élu maire de Toulouse, il démissionne. Alors, il démissionnera. Enfin, si. Il démissionnera de son poste de député et c'est son suppléant qui le remplacera. C'est à ça que ça sert, les suppléants, entre autres. Par contre, tu peux être ministre et député. Non, tu peux pas être ministre et député. Séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Si tu deviens ministre, tu es remplacé par ton suppléant, à nouveau. Par contre, on peut être ministre et maire. Ça, c'est possible. On peut être ministre et maire. Ça, c'est possible. La loi l'autorise. Après, il est déjà arrivé par le passé que des premiers ministres ne l'autorisent pas. Mais une exception avait été faite pour, à partir de 2020, non, c'était plus tard que 2020. Gérald Darmanin, qui a été élu maire de Tourcoing, il est resté ministre en étant maire. C'était la première exception. Puis, il y a eu François Bayrou, qui a été nommé Premier ministre, alors qu'il était maire de Pau. Et il est resté maire de Pau, tout en étant Premier ministre. Il n'y a pas d'élection partielle en cas de désistement pour maire. Non. Non. Pourquoi Dati a démissionné alors qu'elle pouvait cumuler les deux mandats ? Parce que ça lui a été demandé par Sébastien Lecornu et que de toutes les manières, Rachida Dati avait annoncé sa volonté de quitter le gouvernement pour se consacrer à sa campagne municipale à Paris. T'as vu, Estrosi est de gauche depuis dimanche soir. Bah Estrosi, il a rejoint Macron, donc oui, il est de gauche. Dans la tête du Rassemblement National. C'est parfaitement cohérent. C'est quand même gratiné chez les Niçois. Ah, c'est particulier, Nice, ouais. C'est particulier. La vie politique locale est pleine de rebondissements. C'est lui qui s'inclut dans le clan des progressistes et cherche le vote de gauche et le retrait du PS. Ouais, mais il veut pas faire fusion avec le PS, il veut le retrait du PS. Pas la même chose. Rejoindre Macron, c'est pas un suicide politique un an avant les présidentielles. Ah non, mais ça fait longtemps que Estrosi il a rejoint Macron. Ça date de 2022, hein, je crois. Je sais plus exactement, je crois que c'était pendant la campagne présidentielle, ouais. Il a rejoint Édouard Philippe. Il a rejoint Édouard Philippe. Il a rejoint Horizon. Horizon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le parti d'Édouard Philippe, mais c'est surtout le parti, disons, aspirateur, qui sert à recueillir les anciens LR, dont Édouard Philippe. Mais, à ma connaissance, Gérald Darmanin ne fait pas partie d'Horizon. C'est plus compliqué que ça. Ah, mais c'est ce soir le débat sur BFM TV. Ouais, c'est ce soir. Faut que je regarde ça. Enfin, vraiment, est-ce que j'ai envie de regarder en même temps? Oui. Il va bien falloir. T'as pas les droits? Non, j'ai pas les droits. J'ai pas les droits. Ah non, je peux pas vous le diffuser, j'ai pas les droits. C'est quoi ce débat? C'est un débat sur BFM TV entre Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou. Bah, les trois candidats à la mairie de Paris au second tour. Ça t'a coûté combien les droits pour la soirée canapé? T'as le droit de le dire. Je te le dirai pas. Non, je garde ces informations secrètes. Secret commercial, évidemment. Les débats sur les médias mainstream sont devenus insupportables. On comprend rien, c'est n'importe quoi. Bah, en fait... Moi, j'ai jamais aimé les débats politiques à la télé. Hein. Ça m'a toujours gonflé. C'est espèce d'émission où chacun est droit comme un i derrière son pupitre et ils se mettent sur la tronche. c'est caricatural, c'est grossier, c'est, ça ne sert pas à grand-chose. Après, attention, je dis ça, mais moi, je suis l'actualité politique assidûment depuis des décennies. Donc, en fait, j'apprends rien dans ces débats. J'apprends rien du tout. Je suis au courant de tout. Et si tu veux, le spectacle de punchline ne m'amuse pas. C'est pas mon truc à moi. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. La politique, c'est guignolesque. La politique, ça se regarde en mangeant des pop-corns et on regarde son champion envoyer des fions au camp d'en face et tout, et on trouve ça génial. Moi, ça me fatigue plus qu'autre chose. T'es pas la cible, il y a des gens qui regardent un débat tous les 50, c'est leur seul contenu politique. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais t'as raison. Je dis pas qu'il faut pas que ça existe, hein. Je dis juste clairement que je suis pas la cible. Les débats ont zéro impact sur le vote final. J'en sais rien, c'est très difficile à mesurer. Alors, c'est pas tout à fait pareil pour le débat d'entre-deux-tours. Le débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, ça peut être important, c'est un peu devenu un rendez-vous médiatique et démocratique, c'est un peu une institution du débat présidentiel, etc. Mais par contre, les débats où tu as une palanquée de candidats côte à côte, là... Merci, Marilyn. Ces débats-là, j'ai l'impression que les partisans trouvent que leur candidat, il est génial, il a été très bon. Et que les abstentionnistes, ils poussent des longs soupirs devant leur télé en se disant qu'ils ont bien raison d'être abstentionnistes. Voilà, c'est un peu l'idée que je m'en fais. Et à la fin, tu comptes les points et tu te rends compte que personne n'a vraiment gagné ou vraiment perdu, quoi. Philippe Poutou. Mais non, mais Philippe Poutou, il fait kiffer les gens qui l'aiment déjà bien. Voilà, c'est tout. Philippe Poutou, il fait plaisir à des gens que ça sert à rien de leur faire plaisir, ils sont déjà de ton côté. Donc, le débat, c'est un exercice de style, un combat de boxe, mais ça sert à rien. Est-ce qu'une punchline peut se transformer en une politique publique? Est-ce qu'une punchline... Non, mais si une punchline te permet de récolter les votes des gens qui aiment les punchlines, très bien. Mais est-ce que ça fabrique de l'adhésion sur le long terme? Je suis pas sûr. Mais bon. De toute façon, ça fait partie de la campagne. C'est pas. C'est un élément d'une campagne. Ça résume pas une campagne. Les likes sur X, ça ne se transforme pas en vote automatiquement. Ça, la popularité sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais fait une candidature. Souvenez-vous que c'est grâce au débat de la primaire pendant les élections présidentielles que François Fillon s'est démarqué et Benoît Hamon également. Ouais, peut-être. Je n'attribuerai pas le succès de l'un et de l'autre seulement à des débats. Vraiment pas. François Fillon, il a été Premier ministre pendant 5 ans. C'est aussi ça qui a séduit un électorat de droite. Benoît Hamon, il faisait partie des frondeurs. Il a été ministre et il a été frondeur. C'est ça qui a séduit l'électorat socialiste. Donc, je sais pas. Bon, j'ai toujours été dubitatif sur les débats. Si vous, vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre. Je peux complètement comprendre. Puis on verra ce soir. Mais je pense que ça va pas beaucoup parler des politiques publiques à Paris. Si c'est vraiment des échanges d'amabilité. Est-ce que tu places le débat du second tour des présidentielles dans le même panier? Non, 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 non. Non, pour le coup, le débat d'entre-deux tours, c'est un débat face à face. Moi, ce dont je parle, c'est ces grandes messes télévisuelles dans lesquelles on colle les débats, les débatteurs les uns à côté des autres. C'est ça que j'ai toujours trouvé très pauvre politiquement. Ça peut être riche de plein d'autres choses. Politiquement, c'est pas fou, quoi. Je trouve, par exemple, qu'on en apprend beaucoup plus pendant un meeting. Alors, c'est vrai qu'il faut se taper les meetings. Faut écouter le meeting avec le discours du candidat, machin. Bon, bah là, t'apprends des trucs sur sa manière de voir les choses, sur son ambition, sur l'énergie qu'il veut mettre, etc. C'est jamais très précis, un meeting. Évidemment, c'est un exercice de communication, un meeting. Il y a des applaudissements comme ça à chaque fin de phrase. C'est très pénible, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà. Après, mais encore une fois, c'est mon métier. Moi, c'est mon boulot de regarder les meetings, de suivre les meetings, d'écouter les gens parler, etc., de lire les interviews, écouter les matinales de radio. Enfin, je veux dire, une campagne, c'est un tout dans lequel il y a beaucoup d'éléments différents. Et oui, à l'intérieur de ces éléments, il peut y avoir un débat à la télévision. Très bien, c'est pas grave. Mais il y a aussi des meetings, il y a aussi des micros tendus, il y a aussi des matinales de radio, il y a aussi des articles dans la presse, il y a aussi un programme. Il y a un programme, un cahier thématique, un truc écrit sur lequel les ambitions du candidat sont mises. Alors moi, j'aime pas beaucoup les programmes politiques, parce que je trouve qu'à chaque fois, c'est des tartines d'évidence et de propositions assez creuses pour être généreuses et qui font bien exprès de pas être précises, parce qu'en fait, soit tu peux pas rentrer dans la précision, soit tu risques de par honnêteté de devoir dire aux gens qu'en fait c'est pas possible. Donc les programmes, c'est des éléments de communication, très bien, dont acte, donc ça doit servir à ça, et c'est très bien. Tu préfères les projets au programme? Ouais. Non, ça veut rien dire. Après, il y a les livres. Alors, il y a les bouquins. Alors, les bouquins politiques, les bouquins écrits par des politiques, ça vient compléter le programme. En général, ça anticipe le programme. Et moi, ça me gonfle, les livres écrits par des politiques, parce que j'ai toujours l'impression que c'est des filets d'eau tiède d'ambition personnelle et de je me raconte et je me mets en situation et je me mets en perspective et je glose pendant des heures sur des espèces de généralités. Ça m'a toujours pas mal gonflé. Surtout les livres autobiographiques, c'est vraiment le livre où le politique, il te raconte son enfance. Et il t'explique que de ses expériences d'enfant, il a compris déjà à l'époque qu'il se jouait là quelque chose d'important. Arrête, ferme ta gueule. Arrête. Juste, tu jouais aux billes dans la cour de récréation, t'étais un enfant. Pas la peine d'essayer de politiser le truc, nous expliquer je sais pas quoi. Arrête, c'est juste, on a tous été des gosses, on a tous été des ados. Enfin, viens juste, on arrête de se raconter des destins. Ah, ça me saoule, le destin présidentiel. Le destin présidentiel. Les mecs, ils te racontent ça, avec le témoignage de la maman qui dit: Ah oui, mon petit chéri, c'est vrai que quand il était petit, il avait le regard qui portait loin. Ferme ta gueule, arrête de nous prendre pour des cons, c'est pénible. Non, mais vous avez déjà lu ces histoires, les histoires à la con qu'on nous raconte en permanence. Ouais, comment il s'appelle? Napoléon, dans la cour de récréation à l'école, et bah, il dirigeait les batailles de boules de neige. C'était déjà un grand leader. La fatigue.
La fatigue.
Voilà, bon. Mais c'est comme ça, c'est la Ve République. C'est la Ve République, c'est la tradition, hein, c'est obligatoire. Tu dois avoir un destin présidentiel, voilà. De toutes les façons, si t'en as pas, TF1, va t'en trouver un. Tu vas avoir ton Karine Le Marchand, tu vas avoir tes émissions à la con. On va sortir des photos de toi bébé en disant « Ah bah regardez comme il se tenait droit, etc. » Donc, de toute façon, tu vas avoir les émissions à la télé. Donc c'est vraiment ça le présidentialisme débile et tu retrouves ça dans les bouquins des politiques. Tu retrouves ça dans les bouquins des politiques où ils en font des tartines, des pages et des pages et des pages où ils te racontent, ils romancent leur vie, leur rapport aux autres, leurs expériences qui leur ont forgé une destinée. Pourquoi pas ? Je vais me dire pourquoi pas, c'est pas grave. Moi, ça me fatigue, mais vas-y. Ils sont tous passés par là. Et ben voilà. Putain, je me suis énervé tout seul alors que mon but, c'était de vous dire que ces bouquins-là écrits par les politiques... Eh ben, c'est intéressant quand même. Faut passer les premières pages, voilà. Je vais résumer ça comme ça. Faut passer les premières pages où ils parlent de leur adolescence et il faut rentrer dans leur vision du monde, leur manière de penser, les rapports de force, etc., leur lecture des choses et tout. Eh ben, ça apporte des clés de compréhension du bonhomme et tout, machin. Voilà. Il y a des bouquins programmatiques comme ça. Le bouquin Révolution, qui a été publié par Emmanuel Macron en 2016, c'était un archétype de ces bouquins chiants à lire sur plein de pages et c'était des tartines d'eau tiède, etc. Mais il y avait quand même quelque chose de programmatique dans l'articulation de sa pensée, dans sa vision du progrès, etc. Machin. C'est pas révolutionnaire, c'est con, le bouquin s'appelle Révolution. Non, mais je veux dire, c'est pas révolutionnaire dans ce sens que t'apprends pas grand-chose non plus sur le macronisme, parce que le macronisme, on le connaissait déjà un peu. En 2015-2016, on voyait à peu près dans quelle direction ça allait. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être écrit dans un bouquin, donc ça va quelque part. Voilà. Alors sinon, t'arrêtes au résumé du livre. Oui, tu as raison. L'autre solution que je vous conseille, c'est ne lisez pas les bouquins écrits par les politiques, lisez les articles de journaux qui résument le bouquin. Parfait, très bien. Voilà, il y a un journaliste qui s'est tartiné le bouquin, il va vous sortir un article, une critique du livre, dans lequel vous allez avoir la substantifique moelle de ce qu'a raconté le politique, de ce qu'il a voulu dire, et tout. Très bien. Vous pouvez vous contenter de ça, c'est très bien. C'est très très bien. Je l'ai pas lu, Révolution, il parlait de son éducation, de ses premiers et ses derniers émois. Non, il y a un petit peu d'autobiographie dedans, je me souviens pas parce que je l'ai lu il y a 10 ans. Et Révolution, il parlait de sa vision en fait, il parlait de sa vision des choses. Et c'était intéressant dans la perspective de la présidentielle, alors qu'il n'avait pas encore sorti de programme, de savoir dans quel axe il allait aller. Voilà. Le livre « Les jeunes, c'est le présent, faut bien l'acheter ». Le livre de Jean Massier, oui, il faut l'acheter. Oui, il faut l'acheter et il faut le lire en entier. Celui-là, c'est la seule exception. Celui-là, lisez-le. Dedans, j'explique mon enfance à moi. Je raconte comment j'étais destiné à devenir streamer. Comment, déjà petit, je parlais seul dans ma chambre, dans un faux micro. J'explique comment mes parents ont décelé chez moi très tôt une fibre vers la pédagogie et vers... L'enfer. Je vous jure qu'il n'y a rien de tout ça dans mon livre. Je vous en promets. Non, d'ailleurs, dans mon bouquin, un des trucs que je raconte, c'est justement, ce que je dis, merci Thibald, ce que je dis dans mon livre, c'est en partie ce que je viens de vous dire sur on en a marre de cette politique façonnée par le présidentialisme, par la télévision, on en a marre de ces destinées magnifiques, on en a marre de ces hommes et de ces femmes extraordinaires qui, par leur génie, vont résoudre les problèmes des Français et tous les 5 ans, on a le même psychodrame en France où on se repose la question de savoir qui va être le sauveur. Parce que ce qu'on cherche, c'est un sauveur. On cherche un destin christique. On cherche un destin magnifique. On cherche la solution. On cherche la clé. Et on va la trouver dans un homme ou dans une femme. Et ça va être formidable, etc. Voilà. Donc je parle un petit peu de ça dans mon livre, de cette politique qui n'en finit plus de fatiguer quand même beaucoup de gens que ça gonfle un peu tout le monde et que ce serait bien qu'on se dirige vers... Bref, vous verrez dans mon livre. C'est très bien écrit. On en a marre d'idéaliser des hommes qui ne sont que des hommes. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est à cause de Gaulle, on est comme ça. Ce serait méchant de mettre toute la responsabilité sur De Gaulle. Disons qu'il n'est pas le seul dans tout ça. Il y en a d'autres qui s'y sont faits à son petit jeu. Heureusement, le GOAT Jean-Luc se présente en 2027. Tant mieux, si t'as trouvé ton messie à toi, suis-le. Et ne dévie jamais du chemin, comme disait Jésus dans les évangiles. De Gaulle a surtout bien compris les Français. Peut-être, oui. Non, mais peut-être, j'en sais rien. Non, mais c'est-à-dire que... C'est facile de s'en prendre au système politique. C'est plus difficile de regarder aussi vers la facilité ou la paresse intellectuelle que peuvent avoir des électeurs aussi qui aiment bien ce système. Voilà, qui y trouvent finalement quelque chose qui leur convient. Mais cette discussion, on l'a déjà eue, rappelez-vous, quand on parlait de l'instabilité à l'Assemblée nationale. On a une Assemblée nationale divisée avec 11 groupes différents. Disons qu'on est en train de vivre, qu'on le veuille ou non, un vrai moment de parlementarisme. Ce qui est rare, hein, dans la cinquième. C'est même pas rare, c'est unique en fait. On n'a jamais eu de moment dans la cinquième République où l'Assemblée nationale avait un tel poids, sans majorité absolue. Ben j'espère que ça vous plaît, parce que c'est ça le parlementarisme. C'est des engueulades en permanence. C'est des accords de coin de table. C'est des compromis difficiles. Voilà. J'ai rencontré une assemblée nationale en Colombie après 2 heures à cheval. Exactement. Tellement de poids que le gouvernement fait tout pour le contourner. Ben oui, mais il peut pas. C'est ça qui est intéressant. Justement, c'est ça le parlementarisme, paradoxalement. C'est que le gouvernement ne peut pas se permettre de faire sans. Regardez le psychodrame que ça a été pour adopter un budget par 49-3. C'est que même par 49-3, le gouvernement ne peut pas faire adopter un budget. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Michel Barnier. Donc c'est même avec le 49-3, le gouvernement est quand même contraint de négocier. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ça change du fait majoritaire. Ça change du fait majoritaire, ça change des budgets qui sont adoptés en un mois seulement de discussion. De toute façon, il n'y a pas vraiment de discussion, hein, c'est la copie du gouvernement qui est adoptée à la fin. En Belgique, ça fait 50 ans. Depuis 50 ans, résultat, plus personne ne s'intéresse à la politique. Rien n'avance, c'est que des engueulades. Bah, c'est le risque. C'est-à-dire que c'est là où je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que on est tous d'accord facilement pour critiquer le présidentialisme. Parce que pour un milliard de raisons, on en a ras-le-bol de la 5ème République, du président, etc. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on va avoir? Et il est possible que ce qu'on ait à la fin nous déplaise aussi pour d'autres raisons. Merci, l'amiral Bastos. Voilà. C'est pas... Il n'y a pas d'idéal. Je ne crois pas à un idéal, à un système politique absolument satisfaisant pour tout le monde. Je pense sincèrement qu'il faut que les Français se posent une bonne fois pour toutes pour en parler, mais genre pas juste 2 heures. Oui, ça peut être un long processus d'élaboration. Merci, Imoise. De réforme institutionnelle, de fonctionnement, etc. Oui, c'est possible. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait dans l'absolu. Parce que la solution, elle viendra pas de moi. Hein. Moi, si vous me demandez, j'ai mes idées à moi. Mais mes idées à moi, il n'y a que moi qui les soutiens. Enfin, je veux dire, c'est mon truc. Ça viendra aussi de la discussion, de la collaboration, de l'échange, de la délibération. Il y a Jürgen Habermas qui vient de mourir là, hier ou avant-hier, qui était un très très grand philosophe de la délibération, justement. La démocratie délibérative. Pourquoi ne pas changer les règles des élections? Mais on peut en discuter des règles des élections, on peut remettre sur la table les règles électorales, ça fait partie des institutions, c'est à discuter, on peut en discuter. Et il faut peut-être qu'on en discute. Mais c'est pas que la règle électorale qui fait le système, c'est aussi les institutions. Je veux dire, la manière dont on élit le président de la République, c'est important. Mais le pouvoir du président de la République, c'est autrement important. Enfin, je veux dire, c'est aussi, ça, tu me diras, ça en fait partie, c'est lié à ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Une des caractéristiques du présidentialisme de la Ve République, c'est le fait que le président de la République est élu au suffrage universel direct depuis 1962. C'est le suffrage le plus important et le plus puissant qui existe. C'est la plus grande légitimité qui existe en démocratie représentative, c'est le suffrage universel direct. Le président de la République a de facto une assise politique phénoménale. Puisqu'il a été choisi directement par le peuple. Ça le place en situation de confrontation avec l'autre institution issue du même suffrage qu'est l'Assemblée nationale. Si vous affaiblissez le président de la République, mais que vous continuez à l'élire au suffrage universel direct, en réalité, vous ne l'affaiblissez pas vraiment. Puisqu'il continuera à avoir une ascendance importante sur la marche des choses. Forcément, il a été élu. Donc si vous voulez reparlementariser le système, alors il faut qu'on arrête d'élire le président de la République au suffrage universel direct. On retombe dans un système à l'ancienne, en mode 4e République, là, où ce sont les grands électeurs, où c'est, je sais pas, les parlementaires, je sais pas qui élit le président de la République. Mais ça, est-ce que vous pensez que les Français, ils seront d'accord? Parce que dans ma petite tête de constitutionnaliste, c'est peut-être très bien. Mais les gens, les vrais, ils ne seront pas d'accord du tout. Retirer aux Français le pouvoir de choisir leur propre président? Mais jamais de la vie. Donc en fait, cette proposition-là, elle est peut-être bien. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on la mettra en œuvre, en fait. Voilà. Donc, tant que les Français souhaiteront continuer à choisir eux-mêmes leur président, on sera obligé de faire avec un président fort. Pas grave. C'est pas grave. Il faut qu'on retravaille le contour de l'organisation des institutions. Moi, j'avais, par exemple, j'avais vu une proposition qui avait été faite. Là, c'était à Noël dernier. Qui est-ce qui avait dit ça? C'était un sénateur, je crois, je ne sais plus, qui avait dit, au détour d'une interview, qui avait dit « Je ne comprends pas pourquoi le Conseil des ministres se tient à l'Élysée et pourquoi il est présidé par le président de la République. » Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Moi, c'est tellement habitué que je suis de la Ve République et tout, le Conseil des ministres, c'est le mercredi matin, c'est à l'Élysée, c'est présidé par le président, c'est comme ça. Mais en fait, pourquoi on ne le ferait pas à Matignon, Conseil des ministres? Et pourquoi le président de la République, il serait forcément présent au Conseil des ministres? En quoi ça le regarde? Voilà. Je sais pas, on peut en discuter. Ce serait pas que symbolique, hein. Ce serait une grosse perte pour le président de la République, hein, qui pourrait plus foutre les pieds au Conseil des ministres. C'est quand même pas rien. Conseil des ministres, c'est quand même l'instance de direction du pays. Enfin, c'est la réunion des ministres, c'est le pouvoir exécutif. Et ben voilà, ben pourquoi pas. Ben pourquoi pas. Pareil, une proposition qui avait été faite par Emmanuel Macron avec laquelle je suis d'accord, vous savez que le président de la République a la possibilité de venir s'exprimer devant le Congrès. C'est pas utilisé souvent, c'est même devenu assez rare. C'est un truc nouveau, hein, qui n'existe que depuis 2008, hein, c'est assez récent. Le président de la République s'exprime devant le Congrès. Or, le président de la République ne saurait en aucun cas être responsable devant le Congrès, puisqu'il a été élu par le peuple. Tu ne peux pas mettre en jeu la responsabilité politique du président de la République. Même raison pour laquelle le président ne va pas à l'Assemblée. Non, l'Assemblée ne saurait en aucun cas avoir l'ascendant sur le président. Mais donc du coup, le président de la République s'exprime devant les députés et les sénateurs réunis en congrès, il fait un discours, puis il quitte la salle, et ensuite les députés et les sénateurs font des discours pour répondre au président. Et bah, Macron avait proposé une réforme constitutionnelle disant je vous propose que le président reste dans la salle, qu'il écoute vos réponses et qu'ils vous répondent. Un peu comme on fait lors du discours de politique générale. Vous avez déjà vu sur ma chaîne des discours de politique générale, vous voyez comment ça ressemble. Premier ministre prend la parole devant les députés, puis il retourne s'asseoir, les députés se succèdent à la tribune pour lui en mettre plein la gueule, puis le Premier ministre reprend la parole. Ben voilà. C'est pas révolutionnaire, c'est symbolique, c'est pas fou. Mais c'est effectivement une bonne idée. Enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. À partir du moment où on crée une instance de dialogue entre le président et le Parlement, il faut que les deux puissent se parler. Tu ne vas pas juste faire un discours et te casser. C'est absurde. Bon, voilà, vous voyez, ces idées-là, ce n'est pas des idées révolutionnaires, hein. On est dans du symbolique, on est dans l'organisationnel. C'est un petit peu structurel, mais ça peut dire quelque chose d'assez profond dans l'organisation des pouvoirs. Voilà. C'est une trop bonne idée. En vrai, souvent à l'Assemblée, les chefs de groupe s'adressent directement au président, mais en son absence, ça crée un peu de dialogue de sourds. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, non mais moi je continue mon idée. Cette petite réunion du Congrès là, avec le président qui fait un discours, etc., le débat et tout, pourquoi on le ferait pas tous les ans? Pourquoi la France n'aurait pas, elle aussi, un débat sur l'état de la République? On a ça aux États-Unis, le débat sur l'état de l'Union, le discours sur l'état de l'Union du président américain devant le Congrès. On a ça au Parlement européen, ça s'appelle le débat sur l'état de l'Union. Et nous, en France, on a quoi? On a de temps en temps un discours de politique générale du Premier ministre. Mais c'est tout. Venez, en France, on invente une instance annuelle à l'ouverture de la session. Tiens, on n'a qu'à dire ça, à l'ouverture de la session parlementaire. Le président de la République rencontre le Congrès, prononce un discours, les parlementaires lui répondent, etc. Tout ça en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Et hop, 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 quoi. Ça servirait vraiment à quelque chose ou ce serait purement symbolique? Ça replacerait le Parlement au centre du jeu. En tout cas, voilà, ça irait dans la direction de... Rien de ce que je vous dis n'est révolutionnaire, hein. Rien de ce que je vous dis n'est spectaculaire. À lui tout seul, une idée, une proposition, une réforme va tout changer, tout remettre à plat et tout. Non, un ensemble de décisions vont aller dans la direction de... merci Itac. Est-ce que le fait que 70% des Français aient pas le choix de leur mère, c'est pas un problème démocratique majeur? Alors ils ont le choix de leur mère puisqu'ils ont la possibilité de se présenter. Si c'est à l'ouverture de la session parlementaire, c'est un faux. Il en faut deux alors, une à l'ouverture, une à la mi-année. Le streamer Jean Massier en sera ravi. Si on l'a deux fois dans l'année. Tu peux réexpliquer ce qui a changé et pourquoi il y a tant de listes uniques? Il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est juste dans les listes uniques, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont partants pour se présenter. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et non, ce qui a changé, c'est pour les listes de moins de 1000 habitants, il n'y a plus de panachage, c'est tout. Le panachage qui permettait de rayer des noms et d'en rajouter d'autres a été supprimé. Il faut avoir une liste complète avec soi pour se présenter, donc non en soi. Ah bah, si t'as pas assez de gens pour constituer une liste, c'est peut-être une bonne chose que tu ne te présentes pas. C'est que tu ne représentes pas grand-chose. Ben oui, il faut présenter des listes complètes, oui, évidemment. Et encore, je dis ça, mais on a changé la loi pour permettre d'avoir des conseils municipaux incomplets. Hop là, 7 candidats au lieu de 9. C'est en partie à cause de la parité. Oui, sur la suppression du panachage, effectivement, c'est pour des raisons de parité des conseils municipaux. Qu'est-ce que tu penses d'une audition et d'une validation par le Parlement des ministres au moment de leur nomination, comme aux USA avec les secrétaires ou à l'UE avec les commissaires? Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée, ouais. Un ministre qui vient d'être nommé doit faire l'objet d'une audition par la commission permanente de l'Assemblée et du Sénat, compétente sur le dossier. Alors après, est-ce qu'il faut un vote individuel sur les membres ou c'est l'équilibre global du gouvernement? Ça, c'est une discussion à avoir. Mais on pourrait imaginer un système, à minima, un système d'audition. Un système d'audition obligatoire, un ministre qui vient d'être nommé doit être auditionné par la commission compétente à l'Assemblée ou au Sénat. Et au Sénat, on peut faire les deux. Il faudrait un veto après l'audition. On pourrait imaginer, effectivement, ouais, on pourrait créer une règle selon laquelle si la commission vote aux 3/5 pour le renvoi du ministre, alors le ministre est renvoyé. On pourrait imaginer un système comme ça. « 3 cinquièmes dans une assemblée fragmentée comme aujourd'hui. Bah, c'est justement parce que l'assemblée est fragmentée que les 3 cinquièmes permettraient de conserver une stabilité gouvernementale. Parce qu'autant une majorité absolue de censure, tu peux l'avoir, autant une majorité des 3 cinquièmes, c'est dur. Une autre manière de dire, c'est que le ministre serait vraiment rejeté par la commission. Quand tu as 3 cinquièmes des députés qui votent pour te dégager, c'est que vraiment, t'es pas bon. Enfin, c'est... c'est que ça dépasse simplement l'enjeu politique, là. C'est que non. Le risque, c'est que ça prendrait beaucoup de temps d'avoir un cabinet complètement auditionné dans une assemblée surbookée. Oui, mais alors déjà, d'une part, les députés, les ministres, ça ne change pas tous les matins, hein, pour commencer. Et ensuite, on peut étaler ça dans le temps, c'est pas grave. Je veux dire, le but n'est pas d'empêcher la nomination d'un ministre. Une fois que le ministre est nommé, disons qu'il a un mois et demi pour être auditionné. On n'est pas obligé de faire des trucs hyper vénères. Pourquoi vouloir la stabilité pour la stabilité ? Vous voulez un fascisme bien stable. D'accord. Stabilité, fascisme. D'accord. Ok, si tu veux. Est-ce que ça arrive réellement qu'un ministre soit si terrible ? Non, ça n'arrive jamais. À ma connaissance, non. Ce qu'il voulait dire, c'est que la stabilité n'est pas une vertu en soi. Ben, on peut en discuter de ça. Enfin, je veux dire, on peut être en désaccord. En France, on a trop de stabilité. Voilà. C'est l'autre manière de dire qu'on a un pays trop présidentialisé, avec un exécutif trop fort par rapport à un parlement impuissant, etc. Donc tout ça, tous les mots que je viens d'utiliser, c'est des mots compliqués pour dire la même chose, c'est qu'on a trop de stabilité. Nos amis belges, on en parlait tout à l'heure, y en a un paquet qui trouvent que de la stabilité, ça leur ferait du bien et ce serait pas mal. Parce qu'en fait, quand on n'a pas, tu te rends compte que ça te manque. Quand on a trop, ça peut être chiant, certes, mais quand on n'a pas, ça peut être pénible. C'est toujours pareil, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Moi, je suis le premier à vouloir réduire le présidentialisme de la Ve République. Donner plus de pouvoir au Parlement, donner plus d'initiatives directement à la population, une démocratie plus délibérative, etc. Je nous mets juste en garde contre le fantasme d'un système qui n'aurait que des vertus. Non. Ça va être compliqué, ça va avoir des problèmes, d'autres problèmes, des trucs qu'on n'a pas en ce moment, qu'on va découvrir. Et peut-être qu'on reviendra en arrière dans 30 ans parce que, tout bien réfléchi, la Ve République, c'était pas si mal. Ça, j'en sais rien, on verra bien ce qu'on en dira dans 30 ans. Dans un an, on va pleurer Macron quand Le Pen sera élu. On en a déjà parlé, hein. On en a déjà parlé, moi je... On verra, on verra. La France a la mémoire courte. La France a la mémoire courte. Merci, les Zibelines. Quand on revotera aux prochaines municipales, Macron sera de nouveau président. Oui. Oui. Les prochaines municipales. ce sera dans deux présidents de la République. Et a priori, ce sera de nouveau Emmanuel Macron, évidemment.
C'est sûr.
On verra, c'est pas sûr, mais c'est une hypothèse. Et combien de gouvernements? Et combien de gouvernements? Combien de gouvernements aurons-nous? Et combien de partis de gauche? Et combien de partis de gauche seront nés et seront morts entre-temps? Il n'y a pas de limite, il peut se présenter autant de fois qu'il veut tant qu'il fait des pauses. Exactement. Oui, oui, c'est exactement ça. On n'a pas le droit de faire plus de deux candidatures simultanées, consécutives, pardon. Mais on a le droit de faire trois candidatures, quatre candidatures, cinq candidatures, ça on peut en faire autant qu'on veut. C'est juste qu'on n'a pas le droit d'enchaîner les mandats plus de deux d'affilée. Donc tu es obligé de faire une pause. Effectivement, c'est une pause. Donc Bardella, il est suffisamment jeune pour nous faire 6 à 8 mandats présidentiels.
Oui.
Oui. Techniquement, oui, Bardella peut être président de la République pendant une bonne partie du XXIe siècle. Mais bon, peut-être qu'on aura le bon goût de changer de président de temps en temps. Enfin, tu vois, il y a peut-être des moments où ça tourne. Les gens que l'on croyait immortels, bon, bah, ils sont morts. De Gaulle. Bon, bah, De Gaulle, il a bien fini par crever. Enfin, bon, voilà, il y a un moment, les gens, ils ont pleuré très fort en se disant on n'aura jamais un président comme lui, il était extraordinaire, c'était la plus grande. Mais que va-t-on devenir et tout? Bon, bah, finalement, le monde a changé. Mitterrand. La mort de Mitterrand, ça a été un drame absolu. Les gens se demandaient, mais comment la gauche peut-elle s'en remettre? Est-ce seulement possible? Bon, bah oui. Voilà, bon, bah, personne n'est remplaçable, on passe à autre chose, on avance. Seul Michel Drucker reste. Ça, c'est dans la Constitution. Hein. Michel Drucker, c'est une institution, c'est comme ça, on ne touche pas. Je pensais ça pour la reine d'Angleterre. Oui, non, mais voilà. C'est pas grave. Enfin, Oh. Non, mais ça fait partie du délire présidentialiste de la Ve République, cette espèce de... Les grands hommes, les hommes d'État, les géants, indéboulonnables, tellement géniaux, tellement immortels, tellement machin. Bon, bah, ça va, il y a un moment, ils crèvent, et puis on passe à autre chose. Et puis après, il se passe un milliard de trucs, et puis on continue, et on réinvente les choses, et on avance, quoi. Les éléphants, non mais c'est ça. Enfin, après, moi je vous dis ça, je me suis battu contre le cumul des mandats. À l'époque du cumul des mandats, t'avais ce qu'on appelait les barons au niveau local, hein, ou les éléphants du PS, les mecs comme ça, les gars qui sont élus depuis 30 ans, qui sont là depuis toujours, et personne sait comment on peut faire sans eux, parce que c'est eux qui font la pluie et le beau temps, et machin, ils font et ils défont les carrières politiques. Mais casse-toi, papy, putain, c'est pas grave, on va s'en remettre. Le territoire va s'en remettre et tout. Oh. Vous avez vu Santini? Santini, à... c'est quoi sa commune déjà, ici les Moulineaux? André Santini, 85 ans. Candidat à l'élection municipale. Alors qu'il est hospitalisé. Là, tu te dis... Fin, déjà, tu as une responsabilité individuelle. Je suis désolé, André Santini, peut-être quelqu'un de très respectable, j'en sais rien, mais il faut savoir lâcher, en fait. Il faut savoir dire non, il faut savoir dire j'arrête, il faut savoir dire je passe à autre chose, je ne suis pas indispensable, j'ai confiance en vous. Enfin, voilà, Ouais. Et puis ensuite, tu as la responsabilité de son entourage, quoi. Son entourage, c'est pas possible. Tu peux pas laisser un mec de 85 ans hospitalisé se présenter à l'élection présidentielle, quoi. Juste, puis à un moment, faut prendre la parole. Faut dire, faut suggérer de passer à autre chose, en fait. Passer la main, faire une transmission. C'est le Bouteflika d'ici. Ouais, c'est ça, c'est comme Bouteflika. C'est glauque, en fait. C'est glauque. C'est même plus politique à ce stade-là, c'est juste humainement, c'est glauque. Si les gens votent pour... Ouais, mais c'est ça le pire, c'est que les gens votent pour. Voilà, les gens, ils votent parce que... Ben, moi, je vote Santini, ça fait 40 ans que je vote Santini, alors je continue à voter Santini, et puis je me pose pas trop de questions, et puis... Je dis oui, non mais d'accord, mais il peut y avoir du changement dans la continuité, tu vois. Imaginer d'autres personnes qui prennent la succession de l'œuvre immense de Santini, c'est pas grave. Enfin, je me demande s'ils font pas ça pour littéralement rester en vie. Mais si, mais bien sûr. Mais c'est ça le pire. C'est ce que je vous disais sur le cumul des mandats. Moi, je me souviens de cumulards, vraiment. C'est comme ça qu'on les appelait, les cumulards, qui nous disaient les larmes aux yeux. Mais tu te rends compte? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais je peux pas arrêter, mais enfin, c'est toute ma vie. Le pire, c'est qu'ils avaient raison. Ils avaient raison. C'était toute leur vie. Ils avaient été toute leur vie élus du territoire, maire, député, député-maire, etc. Tu comprends, je dois tout à la population, j'ai tout fait pour eux, j'ai sacrifié ma vie pour la cause, etc. Je peux pas m'arrêter. Et effectivement, ces gens ne peuvent pas s'arrêter. Ça dépasse l'entendement, l'idée d'un jour faire un pas de côté, se mettre en retrait, passer à un autre moment de sa vie. Et je dis ça, je sais que ça peut être dur. Je veux pas minimiser l'enjeu humain que ça représente. Le fait de partir à la retraite. Il y a des gens pour qui c'est dur. Voilà, il y a des gens pour qui c'est dur. Je sais pas s'il y a des gens dans votre entourage pour qui ça a été dur. Mais il y a des gens pour qui mon boulot, c'était toute ma vie, ça fait 40 ans, je ne sais faire que ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. Effectivement, c'est une peur, c'est terrible. C'est terrible. Ça peut être terrible pour des gens. Bon, bah, c'est pareil en politique. Il y a des gens pour qui je ne m'imagine pas faire autre chose. Être à la retraite, me mettre en retrait, je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Mais ce n'est pas possible et tout. Et effectivement... On les a tellement maintenus sur le trône là pendant des décennies que eux-mêmes en viennent à ne pas savoir quoi faire de leur vie d'autre. Bon, bah ça, pardon, ceci est une opinion personnelle. Ça, je considère que c'est un rapport malsain à la politique. Voilà, je trouve ça. Je trouve que c'est pas bien. C'est très bien de consacrer sa vie à un combat politique. C'est très bien de se battre, c'est très bien d'avoir été élu, c'est très bien d'être aux responsabilités, etc. Il va falloir qu'on invente aussi une manière de mettre fin aux carrières politiques. Voilà, je ne sais pas comment, j'en sais rien, peut-être mettre une limite dans le nombre de mandats. Ouais, peut-être un jour où ça va devenir interdit de cumuler comme ça éternellement. Je sais pas. Bon, heureusement, il y en a moins qu'avant, parce qu'encore une fois, les cumulards, putain, c'était quelque chose à l'époque. Hein. Les éléphants du PS, là. Les Georges Fraîche, Laurent Fabius et tout. indéboulonnable. Laurent Fabius, son surnom dans les, en Seine-Maritime, c'était Dieu sur Terre. Non, c'était Dieu le Maître. Dieu le Maître. C'était le petit surnom affectueux des militants socialistes du coin. C'est te dire la puissance du mec. Il n'y avait pas un rond-point qui était créé sans qu'il donne son avis.
T'inquiète.
C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Il décide quand il pleut. Il dit, non, t'inquiète. Il défait les carrières. Vraiment. Bon, bah voilà, c'était comme ça. Le PS a été construit comme ça. Avec des gens tout puissants dans leur département. C'était toujours des hommes, évidemment. Bon, c'est une autre époque après. Bon, ok. Très bien. Donc, nous ne sommes plus dans cette époque-là. Ok, qu'est-ce qu'on invente de mieux maintenant ? Comment on fait en sorte qu'il y ait plus de représentativité sociologique dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, les conseils régionaux ? Comment on fait pour avoir des visages qui changent, plus de jeunes ? Comment on fait vivre un peu cette politique ? Bah, c'est toute la question. Merci Action Thomas. J'espère qu'on reviendra pas sur le cumul des mandats. J'espère aussi, mais j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'ils étaient favorables au retour du cumul des mandats. Évidemment, c'est des gens à droite. Voilà. Merci Bad Boulas. Imaginons, je veux rentrer dans la mairie de ma commune. On peut y entrer comme on veut. Bah évidemment. La mairie, c'est ouvert. Hein. Alors, tu peux peut-être pas rentrer dans les bureaux des gens pendant qu'ils bossent, parce que, en fait, non. Tu peux aller à l'accueil, tu peux demander des trucs à l'accueil, tu peux faire des démarches administratives à la mairie. Tu peux assister au conseil municipal, je te rappelle. C'est open. Tu peux te marier dans la salle des mariages. Tu peux pas consommer le mariage dans la mairie, par contre. Non, bref, non, arrêtez. Non. Est-ce que la mairie, c'est public en plus, je crois ? Évidemment que c'est public, la mairie, c'est une mairie. Il n'y a rien de plus public. C'est la maison du peuple. C'est la maison des habitants. Soyez les bienvenus. Comment on sait quand c'est les conseils municipaux ? Site internet de la mairie. Tu auras toutes les informations, les dates, les heures. Et panneau d'affichage obligatoire dans la mairie. Où tu as les dates des conseils municipaux qui sont affichées. Bon, je te conseille d'aller plutôt sur le site internet. Mais donc, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, vous avez accès au conseil municipal de votre ville. Vous pouvez assister au conseil municipal. Vous ne pouvez pas prendre la parole. C'est pas votre rôle, vous n'êtes pas élu, seuls les conseillers municipaux, évidemment, débattent, délibèrent et votent. Mais vous pouvez assister, vous pouvez prendre des notes, vous avez le droit. N'hésitez pas à y aller à l'occasion, vous verrez, c'est très intéressant. En streaming sur YouTube, c'est moins chiant. Alors, tu as raison de rappeler, parce que personne ne le sait, mais il y a beaucoup de conseils municipaux qui sont diffusés en live sur YouTube. Voilà, sachez-le, au cours des 10-15 dernières années, beaucoup de mairies se sont équipées de caméras et de systèmes de captation de conseils municipaux. Donc, n'hésitez pas à aller checker. C'est chiant. Non, je veux dire, vous allez voir, un conseil municipal, c'est studieux, c'est sérieux, c'est long. Voilà. Parfois, il y a de l'ambiance, hein. Il y a des conseils municipaux où ça part en couille, il y a des insultes qui fusent et tout. Ça peut arriver. Mais sinon, bah, c'est studieux, hein. C'est un conseil municipal, hein. Si t'es maire, est-ce que tu peux délocaliser le conseil au bar du coin? Je pense pas, non, j'en sais rien. Ils y font quoi, puisque globalement, l'opposition peut rien faire? L'opposition, elle peut gueuler. L'opposition... Non, mais l'opposition, elle peut s'opposer. Hein. L'opposition, elle peut dire pourquoi elle n'est pas d'accord avec la délibération, pourquoi elle trouve que c'est un projet nul, que le maire ne fait pas le travail. Ah non, l'opposition, elle s'oppose. Hein. Est-ce que les conseillers municipaux sont rémunérés? Les conseillers municipaux touchent une indemnité, oui, qui est calculée selon la taille de la mairie. La taille de la ville, pas la taille de la commune, quoi, en population. Alors, je ne me souviens pas exactement de la clé de calcul de l'indemnité, machin, tout ça est géré par un barème officiel. Voilà. T'as une grosse commune, toi? Moi, j'ai la plus grande. J'ai la plus grosse. Ouais, pardon. Ah, oh, ça va, j'habite à Paris, c'est bon. Est-ce que maire, c'est un métier suffisant pour vivre ou il faut un second métier pour certains? Ça dépend de la taille de la commune. Pour les petites communes, non, maire, c'est un... Maire, ça t'occupe une journée, une demi-journée par semaine pour les petits villages. Le reste du temps, en général, c'est des agriculteurs d'ailleurs qui sont maires. Ils s'occupent de leur exploitation. Et ensuite, plus tu montes dans la taille des communes, plus ça prend du temps et plus le maire a une grosse indemnité justement pour lui permettre de s'y consacrer à plein temps. Plus ou moins plein temps. Le maire de Paris cultive sa terre. Oui, bien sûr, le maire de Paris cultive sa terre, évidemment. Les copains, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Hop. Putain, mais je comprends plus rien. Twitch, il range plus les streams par taille d'audience. Je comprends pas comment ils font leur truc. C'est bizarre. Tu peux choisir. Ah ouais, tu peux trier, mais tu peux trier où? C'est où? C'est dans les options? C'est où? Clique sur les flèches. Mais je vois pas de flèches. Ah ouais, si, spectateur. Oui, d'accord, ok. Ah ouais, c'est là, c'est sur les flèches. Chaîne suivie. Ok, c'est bon, je l'ai. Merci les copains. Merci, merci. Bon, je vous rappelle l'ordre du jour. Je vous rappelle la ligne. Je vous rappelle la ligne. Vous tenez la ligne. Hein. Demain, Backseat, à partir de 19h, on débriefe le premier tour des élections municipales avec Émilien, Rachel et Antoine. Ça va être trop bien. Et deuxième partie d'émission, on reçoit deux invités politiques en même temps. Claire Lejeune et Chloé Ridel. Claire Lejeune, elle est députée insoumise. Chloé Ridel, elle est députée européenne socialiste. Elles sont toutes les deux d'anciennes chroniqueuses de Backseat et elles viendront. Bah voilà, on va les interviewer pour savoir comment ça se passe, les unions, tout ça. Ça y est, c'est l'heure des bisous entre le PS et les insoumis. Comment ça se passe? Merci à vous. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut tout le monde. Ciao, ciao.